Europe 1.
Nous sommes le jeudi 25 avril, il est 7h.
Europe 1 matin.
7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
Et à la une ce matin, 16 ans et déjà tenté par le terrorisme. Un ado projetait un attentat à Paris pendant les Jeux Olympiques. Ambition déjouée par les policiers qui l'ont interpellé chez lui en Haute-Savoie. Récit dans un instant. La grande pagaille dans les aéroports français ce jeudi avec près d'un vol sur deux supprimé en moyenne. La levée du préavis de grève des contrôleurs aériens hier ne change rien à l'affaire. Nous irons au Royaume-Uni où les migrants entrés illégalement sur le territoire britannique pourront désormais être expulsés vers le Rwanda. Faut-il une mesure similaire pour les migrants entrant illégalement sur le sol français? La réponse, oui, à 67%. C'est ce qui ressort d'un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le journal du dimanche. Et puis E407, E340, nom de code d'émulsifiant qui pullule dans nos assiettes. Problème, ces additifs seraient associés à certains types de diabète. Le journal de 7h sur Europe 1. Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il voulait mourir en martyr pour le califat islamique. Voilà l'ambition tragique de ce gamin de 16 ans déjà radicalisé. Son projet, réaliser un attentat à Paris pendant les Jeux Olympiques. Sa cible, le quartier de la Défense. Les policiers ne lui en ont pas laissé le temps. Il a été interpellé chez ses parents à Marigny en Haute-Savoie. Antoine Bienveau.
Oui, selon le parquet national antiterroriste qui s'est saisi de l'affaire, il s'agit d'un adolescent de nationalité française suivi pour radicalisation islamiste. Âgé de 16 ans, il projetait de commettre un attentat suicide dans le quartier de La Défense pendant les Jeux Olympiques. Les enquêteurs ont été alertés par des messages postés sur la messagerie cryptée Telegram. Le jeune homme y affirmait vouloir se procurer les éléments nécessaires à la fabrication d'une ceinture explosive. Dans ces messages, il disait également vouloir mourir en martyr au nom du califat islamique. Un document manuscrit d'allégeance à l'État islamique a d'ailleurs été retrouvé par les enquêteurs lors des perquisitions. Le suspect a été placé en garde à vue et fait l'objet d'une enquête pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Les enquêteurs doivent maintenant déterminer le degré d'avancement de ce projet macabre avorté et procéder à une analyse psychologique du suspect pour déterminer si oui ou non cet adolescent était bel et bien prêt à passer à l'acte.
Enquête Antoine Bienveau. L'émotion à Grande-Synthe dans le Nord aux obsèques de Philippe Kopmann, ce jeune homme de 22 ans mort sous le coup de ses agresseurs, obsèques qui se sont déroulées dans le calme et sans incident notable. Environ 500 personnes réunies pour un ultime hommage. Quelques mots pour dire la peine et la tristesse. Près de 10 jours après le drame, les habitants ne comprennent toujours pas ce déchaînement de violence dont il a été victime. Reportage Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France.
Sur le parvis de l'église, après la cérémonie, Thierry regarde passer le cercueil de Philippe. Le regard triste, comme beaucoup de personnes dans l'assistance, il se dit désemparé face à la violence sauvage dont le jeune homme a été victime.
Et maintenant les jeunes, c'est le couteau, c'est le machin, c'est le truc. Pour oui, pour non, on tue les gens, on les massacre. Voilà quoi. Moi je suis outré de voir toute cette violence-là.
Alors quelle réponse apporter à la dérive de certains adolescents? L'éducation, la responsabilisation des parents. Et pourquoi ne pas commencer par l'instauration d'un couvre-feu pour mineurs, suggèrent Thomas et Jimmy, deux pères de famille.
Ça serait une loi utile. À 3h, il n'y a plus de mineurs dans la rue. Mais à un moment donné, il faut que le gouvernement il fait bouger les choses.
À une certaine heure, les enfants, c'est pour dormir la nuit, c'est pas pour sortir. Hein. Tout seul comme ça dans la rue, qu'est-ce qu'ils font quoi? Faut qu'on règle ça.
Et chez ses habitants, l'émotion laisse rapidement place à la colère, avec, comme pour Caroline, l'attente d'une réponse ferme de la justice.
Et j'espère que la justice va être très dure avec ces jeunes et qu'ils soient jugés comme des adultes et pas comme des enfants.
Les signes de la tension qui règne encore en ville, le maire Martial Beillard a renoncé hier à se rendre aux obsèques, ayant été la cible de menaces de mort. À Grande-Synthe, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et en ce qui concerne l'enquête, un troisième mineur a été mis en examen et placé en détention provisoire. Devant les enquêteurs, les trois adolescents ont affirmé qu'ils se seraient peut-être trompés de cible.
La décision britannique d'expulser les migrants illégaux vers le Rwanda provoque une avalanche de réactions.
Alors on en rappelle les termes. Les étrangers en situation irrégulière seront expulsés vers le Rwanda. Kigali percevra une forte compensation financière en échange. Le Conseil européen appelle le Royaume-Uni à revenir sur cette loi. Et les Français, qu'en pensent-ils? Sondage exclusif CSA pour Europe 1, CNews et le JDD. Deux tiers des Français veulent la même chose, Alexis de la Fontaine.
Expulser les migrants illégaux vers un pays tiers, c'est une mesure largement soutenue par les Français. 9 sympathisants de droite sur 10 y sont favorables. Un chiffre qui grimpe jusqu'à 94% au Rassemblement national. Chez les soutiens d'Emmanuel Macron, ils sont deux tiers à réclamer cette solution d'urgence pour stopper l'immigration illégale. Même au sein de la gauche la plus radicale, cette idée recueille 45%. 45% d'approbation, alors que la France Insoumise et autres ont toujours milité pour l'ouverture des frontières. La preuve qu'une large majorité de la population souhaite désormais des décisions fortes pour faire face aux vagues migratoires à répétition. Par ailleurs, les résultats laissent apparaître un léger décalage générationnel. Plus les personnes sont âgées, plus elles soutiennent le renvoi des migrants illégaux.
Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1.
Un jeudi noir dans le ciel français, malgré la levée du préavis des contrôleurs aériens.
Et 3 vols sur 4 supprimés au départ ou à l'arrivée d'Orly. Près d'1 sur 3 pour Marseille, du jamais vu depuis une vingtaine d'années, selon un professionnel du secteur. Quelques exemples seulement de la pagaille qui s'annonce aujourd'hui, malgré un accord arraché in extremis entre les syndicats et le ministère des Transports.
7h05 sur Europe 1. L'actualité à l'étranger à présent, c'est aussi ce regain de tension à la frontière entre le Liban et Israël.
L'État hébreu annonce une offensive sur 40 positions du Hezbollah libanais, mouvement proche et allié du Hamas. Pilonnage massif opéré par l'aviation et l'artillerie israélienne. Israël qui maintient son objectif principal, l'offensive sur la ville de Rafah dans la bande de Gaza. Aucun espoir de trêve à ce stade.
Et le conflit s'exporte chaque jour un peu plus en France et aux États-Unis.
On l'a vu avec les multiples manifestations d'étudiants pro-palestiniens à Sciences Po. Nouveau rassemblement hier soir. Manifestation aussi dans les facultés américaines, notamment à l'université de Columbia. Viva Fried, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Campement installé à l'entrée et les étudiants juifs pris à partie, de quoi faire réagir jusqu'au sommet de l'État.
Oui, le Premier ministre israélien en personne est monté au créneau dans une vidéo publiée sur X.
Des hordes antisémites ont pris le contrôle des grandes universités. Elles demandent la destruction d'Israël et attaquent les étudiants juifs. Cela rappelle les universités allemandes des années 30. Il faut arrêter cela et les condamner sans équivoque.
Et comme en écho à cette vision pessimiste, à Columbia, les cours sont désormais en ligne car l'administration estime ne plus pouvoir assurer la sécurité, notamment des étudiants juifs. Alors, même avant l'intervention de Benjamin Netanyahou, Joe Biden avait bien condamné ces débordements, mais il continue de se réfugier derrière le premier amendement par la voix de la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre.
Le président considère que les débats sur les campus où l'on peut s'exprimer librement et sans discrimination sont importants. Mais les manifestations doivent être paisibles.
Une manière de ménager la chèvre et le chou. Le président américain est viscéralement attaché à Israël, mais il ne veut pas non plus s'aliéner une partie de son électorat. Une position difficilement tenable et qui pourrait lui coûter très cher en novembre prochain.
Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis.
Ah, de l'intérêt de lire les étiquettes au supermarché sur les produits que vous mettez dans votre panier. Ceux dont l'étiquette affiche un E, attention, ils ne sont pas forcément vos amis. E, ça veut dire émulsifiant.
Et des additifs étudiés par l'INSERM et l'INRAE, 104 000 personnes testées. Enquête publiée dans la revue The Lancet, plus on en consomme, plus on risque de développer un diabète, Yasmine Akatou.
Oui, les additifs E406, E407, E340 par exemple, vous pouvez les retrouver dans les rillettes de thon sopiquet, les yaourts hyperprotéinés iPro ou encore les plats préparés du géant Weight Watchers. Ce sont des émulsifiants, des additifs qui servent à améliorer la texture des aliments, à mélanger le gras et l'eau par exemple. Les fabricants pourraient donc se passer de ces ingrédients superflus qui, pour certains, augmenteraient de 15% le risque de développer du diabète de type 2. Mathilde Touvier est directrice de recherche à l'INSERM et coordinatrice de l'étude.
D'après les études expérimentales, une perturbation du microbiote intestinal a été démontrée avec certains émulsifiants. Perturbation du microbiote veut dire potentiellement une inflammation chronique, inflammation qui est retrouvée souvent comme mécanisme de base qui fait le lit finalement de maladies telles le diabète ou maladies cardiovasculaires.
Ces additifs seraient aussi associés à une augmentation du risque de cancer. Alors pour les éviter, la chercheuse recommande tout simplement de se tourner vers des produits bruts et de limiter la consommation des aliments transformés.
Yasmine Akatou, spécialiste santé à Europe 1. Allez, le football, 3 matchs en retard pour le compte de la 29e journée de Ligue 1 hier soir. Le PSG, large vainqueur de Lorient, 4-1, devra attendre encore un peu pour le sacre puisque Monaco a également gagné face à Lille 1-0. Match nul entre Marseille et Nice, 2-2.
Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal.
Il est 7h09 sur Europe 1, à suivre l'édito Écho.
On va parler du CETU ce matin, le CETU, le compte épargne-temps universel. C'est-à-dire comme celui que vous avez peut-être dans votre entreprise, mais portable. Comme ça, si vous changez d'employeur, les syndicats se sont mis d'accord. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'économie française? On en parlera avec Nicolas Bouzou. Juste après l'invité actu d'Europe 1 Matin, Olivia Morel, elle est la porte-parole de la déclaration de Casablanca qui milite pour l'abolition de la GPA. La GPA qui vient d'être classée dans la catégorie des actes de traite des êtres humains par le Parlement européen. Hein, tout de suite.
7h-9h,
Europe 1 Matin.
Il est 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin la militante anti-GPA, Olivia Morel.
Bonjour Olivia Morel.
Mais bonjour.
Bienvenue sur Europe 1. Le Parlement européen a voté hier de manière définitive une révision de la directive sur la lutte contre la traite des êtres humains. La liste des eurocrimes s'enrichit après cette révision puisque désormais il figure aux côtés de l'esclavage ou de l'exploitation sexuelle, le mariage forcé, l'adoption illégale et la GPA, c'est-à-dire la gestation pour autrui, la pratique des mères porteuses. Voilà. C'est une victoire pour vous, Olivia Morel, qui militait pour l'abolition de la GPA.
Oui, c'est une victoire. On est vraiment très contents. Alors aujourd'hui, c'est vrai que le texte final reste complexe dans sa formulation. Hein. On parle de gestation pour autrui à des fins d'exploitation reproductive. Évidemment, c'est pas ce qu'on voulait à la base, et je pense que ce n'est pas ce que François-Xavier Bellamy, qui a porté quand même ce texte, voulait à la base. Mais la complexité de la formule n'autorise pas pour autant une espèce de distinction entre les cas de gestation pour autrui qui seraient par exemple légitimes et d'autres qui ne le seraient pas. Donc on est très très contents aujourd'hui.
Oui.
C'est une grande victoire et c'est un pas en avant vers l'abolition universelle de la gestation pour autrui.
Alors justement, voilà. Alors ce qui est intéressant, ce sont les mots qui sont employés dans le texte. Vous dites, c'est pas la GPA en soi qui est considérée comme de la traite d'êtres humains, c'est l'exploitation de la GPA. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette subtilité ?
Alors c'est la gestation pour autrui quand c'est l'exploitation de la gestation pour autrui. Après, libre à chacun d'interpréter ça comme il le veut. En tout cas, au tout début, quand les amendements avaient été proposés, François-Xavier Bellamy, au tout début, avait proposé la gestation pour autrui, tout simplement. Ensuite, il y a eu plusieurs amendements mettant la gestation pour autrui commerciale. Donc, ça a été le fruit de beaucoup, beaucoup, beaucoup de négociations. Ça a été très compliqué, je sais, pour le parti du PPE, pour ECR aussi, hein, pour aussi les deux rapporteurs de The Left de l'Europe.
Oui, parce que ce qu'il faut dire,
ça a été très, très compliqué.
Ce qu'il faut dire, Olivia Morel, c'est que le vote a été sans ambiguïté. On a 563 voix pour, 7 contre, 17
Absolument.
Abstentions. Et de tous les, parmi les soutiens du texte, on voit que c'est très bien distribué entre tous les groupes politiques de gauche comme de droite, hein.
Parce que ce n'est pas une affaire de gauche et de droite. C'est bien ça qui est incroyable aujourd'hui. C'est que ça va au-delà de ça. On parle de dignité humaine. Et quand on parle de dignité humaine, il ne devrait pas y avoir de sous ces clivages droite, gauche, extrême droite, extrême gauche, centre. Non, on doit tous se réunir autour de la table et parler de gestation pour autrui. Parce qu'aujourd'hui, c'est malheureusement la dignité humaine et elle est mise à mal. À cause de la gestation pour autrui, pour nos femmes et pour nos enfants.
Alors, il faut raconter votre histoire aux auditeurs d'Europe 1, Olivia Morel, parce que vous êtes née de GPA. J'ai dit tout à l'heure que vous saviez de quoi vous parliez. Vous êtes née, vous l'avez découvert assez tardivement d'ailleurs dans votre existence, en 91, pardon, à Louisville.
Oui.
je vous vieillis pas, non. À Louisville.
Non, ça suffit. Hein.
Ouais. Donc voilà, née dans le Kentucky. Et vous racontez, vous allez nous l'expliquer, que finalement, vous aviez une souffrance en vous que vous ne vous expliquiez pas.
Non, c'est vrai que toute ma vie, alors je ne l'ai pas su, c'est vrai que mes parents à moi ont pris le parti de ne pas me le dire quand je suis arrivée ici sur Terre. Je l'ai découvert par moi-même plus tard dans mon existence, mais il y a toujours eu un décalage entre mes parents et moi. Je n'appartenais pas, je sentais qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, qui n'allait pas, je ressemblais pas à ma mère, j'avais pas de photo de moi à la naissance. Bref, j'avais plein d'indices qui me pointaient vers la direction soit de l'adoption, soit de la gestation pour autrui. Et c'est vrai qu'à 17 ans, j'ai fait mes recherches. J'ai trouvé la gestation pour autrui et c'est de là où tout s'est encliqué. Puis ensuite, j'ai fait un test ADN qui m'a remonté vers ma cousine, mes demi-frères, demi-sœurs et ma mère biologique, ma mère porteuse.
Mais que vous ont dit vos parents quand vous avez découvert que vous étiez né de GPA pour expliquer d'avoir eu recours à une mère porteuse et surtout de ne pas vous l'avoir dit, Olivia Morel?
Oui, alors ils me l'ont pas dit, je pense, parce que ils savaient pas comment me le dire. Ils avaient une vie parfaite, ils avaient une vie avec un nouvel enfant, ils avaient de l'argent, ils étaient heureux, donc ils savaient pas trop comment l'amener, et je leur en veux pas du tout, mais absolument pas. Ce n'est pas le mensonge, le problème, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, je parle à d'autres enfants qui sont nés par gestation pour autrui, toutes ces, et c'est que des filles d'ailleurs, toutes ces jeunes filles l'ont su depuis la naissance et ont souffert autant que moi.
C'est vrai.
Donc ce n'est pas le mensonge. Oui, absolument. Et ce n'est pas le mensonge qui a causé mes problèmes. C'est vraiment l'arrachement à ma mère à la naissance qui a causé tous les troubles. C'est ce syndrome de l'abandon, c'est ce problème d'identité. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont passées.
Mais comment vous l'expliquez, pardonnez-moi Olivia Morel, parce que il y a quelque chose qui peut-être échappe à l'entendement. Comment vous expliquez d'avoir eu l'intuition de cet arrachement, de cet abandon, quelque chose de sans le savoir, vous le sentiez, ça défie un peu l'entendement.
Oui, c'est sûr, mais c'est à l'intérieur, c'est un instinct, c'est instinctif. On n'est pas bête en étant enfant, on voit les choses autour de nous, on voit qu'il y a un décalage avec notre... Moi, je voyais qu'il y avait un décalage avec ma mère, je voyais qu'elle était beaucoup plus âgée que la normale. Voilà, on a plein de signaux qui viennent de l'extérieur, on le sent, on le ressent. On ressent aussi qu'on n'est peut-être pas à sa place, un peu comme les enfants adoptés. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il y a des enfants adoptés qui sont très heureux, hein. Attendez, je dis pas le contraire, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants adoptés qui souffrent beaucoup du fait qu'ils ont été adoptés. Et moi, c'était exactement la même chose. J'ai pu échanger d'ailleurs avec des enfants qui ont été adoptés et nos ressentis sont quasiment les mêmes.
Ouais, mais ça fait beaucoup réfléchir.
Ça s'explique.
Ça fait réfléchir sur le mystère d'ailleurs du lien entre la mère et son enfant. Alors, je voudrais vous faire réagir également, Olivia Morel, sur cette polémique qui est née hier autour de Marion Maréchal, donc la tête de liste Reconquête pour les élections européennes. Elle a répondu au message du styliste Jacques Musse et de son compagnon qui a annoncé sur les réseaux sociaux la naissance de leurs deux premiers enfants. Marion Maréchal a simplement demandé « Mais où est la mère ?» Où est la mère? Et alors, ça lui a valu des accusations violentes, d'homophobie, voilà, notamment de l'ancien ministre Clément Beaune, qui ne fait pas mystère, lui d'ailleurs, de son homosexualité. Comment vous regardez cette polémique?
Alors, je pense que Marion Maréchal n'a pas voulu faire une polémique homophobe contre Jacques Musse et son mari. Je pense qu'elle a posé une question qui est réelle, où est la mère? Et ça en va pour les parents hétérosexuels comme les parents homosexuels. C'est vrai, où est la maman? On enlève la maman, on arrache la maman, on efface la maman dans la gestation pour autrui. On arrache un enfant à sa mère. Je pense que c'est ça qu'elle a voulu dire. Peu importe que Jacques Musse soit homosexuel ou non, si ça avait été un couple hétérosexuel, on aurait crié au scandale.
Mais je rappelle que la GPA est illégale en France, mais ça donne l'impression qu'elle est inattaquable aussi.
Évidemment, je crois qu'elle l'est, elle l'est. Alors, on croit qu'il y a une espèce de fatalité parce qu'on a légalisé. Moi, je suis pour le mariage homosexuel, mais on a l'impression que parce qu'on a légalisé le mariage homosexuel, la PMA, que c'est que la gestation pour autrui s'inscrit un petit peu dans l'histoire. On est obligé d'aller vers ça, on tend vers ça. Mais non, j'aimerais vraiment le répéter, se dire que c'est une fatalité. On va pas y arriver. Je pense pas qu'en France ça va venir. Je n'y crois pas. Je pense qu'aujourd'hui la France a encore cette envie de respecter la dignité de l'humain, de la femme, des enfants, et je pense que ça n'arrivera jamais en France grâce à cette profonde reconnaissance des droits de l'homme en France.
Merci beaucoup de votre témoignage, votre prise de parole ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Olivia Morel, merci à vous.
Merci beaucoup.
Je rappelle que vous êtes la porte-parole de la déclaration de Casablanca qui milite donc pour l'abolition de la GPA. Bonne journée à vous.
Il est 7h19 sur Europe 1. Bon réveil.
7h-9h, Europe 1 matin. L'édito éco.
Bonjour Nicolas Bouzou.
Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous.
Bonjour Nicolas.
Alors Nicolas, le sais-tu, le compte épargne-temps universel va voir le jour. Une poignée de syndicats sont parvenus à s'entendre au début de la semaine. Alors pour commencer, peut-être expliquez-nous, c'est quoi le sais-tu?
Oui, c'est une vieille revendication de la CFDT que le président Macron avait mis dans son programme de 2022 pour faire plaisir aux syndicats, qui d'ailleurs pourtant on n'a pas hésité à le lâcher pendant la réforme des retraites, comme quoi. Alors depuis les 35 heures, les salariés de certaines entreprises, celles qu'ils veulent, ont droit à un CET, un compte épargne-temps. L'idée, c'est de pouvoir transformer en argent des RTT ou des congés qui ne sont pas pris, ou alors de les épargner pour les prendre plus tard. Le CETU vise à rendre obligatoire ce dispositif pour tout le monde, et surtout le rendre transférable entre les entreprises. Ça veut dire que si vous accumulez des congés, si vous changez d'entreprise, vous pourrez les garder. Alors, c'est simple en théorie, c'est très compliqué en pratique. Ça veut dire qu'un jeune qui épargne une heure de travail à 20 euros en 2024 pourra donc se la faire payer dans 30 ans par l'entreprise dans laquelle il travaillera. L'accord a été signé en effet par les syndicats de salariés. Il sera donc dans la loi sans doute à l'automne.
Mais c'est très à l'avantage des salariés, le sais-tu, Nicolas.
Oui, mais enfin, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Alors, je vous fais grâce de la mise en œuvre pratique, parce qu'il faudrait y consacrer toute la matinale, mais c'est vraiment un enfer pour les entreprises, mais c'est aussi un enfer financier, parce que ce dispositif serait universel, il s'appliquerait donc à toutes les entreprises, y compris les toutes petites, Pour que ça marche, les entreprises devront verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme qui correspond au congé, au RTT, aux primes stockées par le salarié depuis qu'il travaille. Ce sont donc des sommes absolument colossales qui vont mobiliser la trésorerie des PME notamment et qui n'iront ni en investissement ni en salaire.
Non, c'est une complexité supplémentaire pour les entreprises alors qu'on parle de simplification en ce moment beaucoup, Nicolas.
C'est exactement ça, c'est bien le problème, une incohérence de plus. Alors Bercy est conscient du sujet et souligne que c'est une promesse présidentielle, donc on peut rien y faire. Mais enfin, la réalité est univoque. Simplifier d'un côté et compliquer de l'autre, ça s'appelle en fait compliqué. Voilà qui risque de gâcher le bon travail entrepris par Bruno Le Maire sur la simplification des normes. Franchement, je vais vous dire, on a l'impression d'être revenu au début du quinquennat de François Hollande.
Signature Europe 1, Nicolas Bouzeau. Merci beaucoup, Nicolas. Il est 7h22.
Europe 1.
Sur Europe 1, vous avez rendez-vous l'actualité tous les soirs à 18h avec Laurence Ferrari, Punchline, pour suivre tous les dossiers de la journée.
Oui, une heure d'information de 18h à 20h sur Europe 1 et CNews avec Laurence Ferrari et ses chroniqueurs qui débattent, qui analysent et qui prennent le temps de revivre l'actualité de la journée. 18h, 19h, Punchline sur Europe 1 et CNews.
Allez, bonne journée à vous à 7h22. Si vous nous rejoignez, l'essentiel de l'actualité, le journal permanent, Christophe Lamar sur Europe 1.
Un adolescent de 16 ans fiché interpellé chez ses parents en Haute-Savoie. Il projetait un attentat à Paris en plein Jeux Olympiques pour, dit-il, mourir en martyr au nom du califat islamique. Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête. Faut-il faire comme le Royaume-Uni et expulser les immigrés illégaux vers un pays tiers? 67% des Français disent oui. Résultat d'un sondage exclusif CSA pour Europe 1, CNews et le JDD. Un petit pas vers l'abolition de la gestation pour autrui en Europe. Bruxelles inclut l'exploitation de la GPA dans sa directive de lutte contre la traite des êtres humains. Enfin, comme un moulin sans ailes, le moulin rouge, emblème géant du célèbre cabaret parisien, a perdu ses ailes cette nuit. Elles se sont brutalement décrochées pour une raison encore inconnue. Aucun blessé selon les sapeurs-pompiers.
Le César du meilleur acteur.
Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos.
Bien ce week-end.
Serge Gainsbourg, bonjour.
Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir.
Europe 1. Et à 7h23 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où.
Le 25 avril 2001 sortait au cinéma un film qui allait devenir un phénomène lors d'Autriche, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, signé Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou dans le rôle principal.
Oui, l'histoire de cette serveuse introvertie et fantasque qui décide de semer discrètement le bonheur autour d'elle en réparant la vie des gens sans qu'ils le sachent. Cette histoire a vite emballé le public.
C'est incroyable ce qui vient de m'arriver. Ça doit être mon ange gardien, c'est pas possible autrement.
Et surtout, Amélie Poulain, avec ses cheveux noirs au carré et son air malicieux, va agir de manière anonyme. C'est ce qui a plu au réalisateur Jean-Pierre Jeunet, ici sur Europe 1 au moment de la sortie du film.
Elle fait ça de façon complètement gratuite, sans rien réclamer en échange. C'est ça qui est troublant, je trouve. Ouais. Alors évidemment, elle va être récompensée à la fin, parce que évidemment, on est au cinéma, c'est l'industrie du rêve.
Le film va faire plus de 8 millions d'entrées au cinéma. Jean-Pierre Jeunet est tombé des nues.
Mais là, on ne comprend même pas ce qui nous arrive. Visiblement, on a touché quelque chose chez chacun. On ne sait pas trop quoi, mais c'est peut-être bien de ne pas trop chercher à comprendre.
Ouais, c'est vrai.
C'est extraordinaire.
Pour incarner Amélie Poulain, Audrey Tautou a fait l'unanimité lors du casting, qui est pourtant une épreuve pour elle à chaque fois, comme elle le raconte au micro de Bruno Kras sur Europe 1 en 2001.
Rien n'est jamais gagné, quoi.
C'est dur un casting?
Ah bah oui, c'est difficile. Moi, j'en ai raté plein aussi.
C'est vrai?
Ah bah oui. On se dit qu'il faut absolument plaire, correspondre au rôle tout de suite quand on va rentrer dans la pièce. Donc déjà, c'est difficile d'être naturel et spontané, parce que comme on en demande, les rapports sont pas forcément équilibrés.
Pour sa petite amie, ça doit pas être facile tous les jours.
Les temps sont durs pour les rêveurs.
Le film devient donc un phénomène au point que cette jeune fille qui s'appelle vraiment dans la vie Amélie Poulain, qui est étudiante à Lille, a vu à l'époque sa vie changer.
Il y a même une fois, qu'est-ce que j'ai eu dans mon casier à l'école, j'ai eu un petit mot, rendez-vous au photomaton du restaurant universitaire, des trucs comme ça, et c'est gentil, enfin vraiment.
Parce que dans le film, il y a une histoire de photomaton.
Ouais, voilà.
Alors le film, vous l'avez vu combien de fois?
3 fois.
Mais moi, à 30 ans, on passait derrière un zinc. J'en connais un rayon, question coup de foudre.
Ah ouais. Et depuis 20 ans, les touristes étrangers veulent aussi, lorsqu'ils visitent Paris et Montmartre, voir le café Les Deux Moulins, où a été tournée une partie du film et où on sert désormais le goûter d'Amélie, café, framboises fraîches et crème brûlée, le dessert adoré d'Amélie Poulain.
Merci Laure d'Autriche, il est l'heure de jouer avec Europe 1 et le jour où.
7h, 9h, Europe 1 Matin.
Et toute cette semaine, Europe 1 vous envoie en croisière avec CroisiEurope, un magnifique cadeau. C'est la compagnie française leader de la croisière fluviale en Europe qui va vous faire vivre cette semaine inoubliable. Vous allez naviguer pendant 5 jours au fil de la Garonne et de la Dordogne à la découverte des trésors vinicoles du Sud-Ouest. Blaye, Libourne, Saint-Émilion, avec modération effectivement. Tout est compris à bord, hein. Une cuisine raffinée, des boissons, les animations et les visites guidées, les excursions à terre. Europe 1 s'occupe de tout pour vous et vous pouvez découvrir votre futur croisière sur croisiereurope.com.
Voici la question du jour. Qui est le réalisateur du fabuleux destin d'Amélie Poulain? Est-ce Jean-Pierre Jeunet ou bien Luc Besson?
Pour tenter votre chance ce matin, c'est simple, vous envoyez croisière au 7 39 21, 2 fois 75 centimes plus coût du SMS, vous répondez à la question du jour et le tirage au sort aura lieu demain. On ne traîne pas, bonne chance à tous. Je vous rappelle qu'à 8h10, Jérôme Guedj sera l'invité de la grande interview Europe 1 CNews.
Le député socialiste de l'Essonne face à Sonia Mabrouk, rendez-vous dans 3 quarts d'heure.
Europe 1 Matin.
7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
Nous sommes le jeudi 25 avril à la une ce matin. Les femmes en tribune et un blason qui fait clairement référence à l'islam. Le club de football du 7 olympique dans l'Hérault, sanctionné par l'État qui ne veut plus financer ce qu'il assimile à des manquements graves à la laïcité. Dans l'actualité ce matin également, des appartements transformés en abattoirs illégaux. Les préfets appelés à lutter dès maintenant contre les sacrifices clandestins de moutons en prévision de l'Aïd qui aura lieu courant juin. Finalement, très peu de grévistes dans les aéroports ce jeudi, mais très peu d'avions également. On va vous expliquer pourquoi. Et puis nous parlerons des Jeux Olympiques dans le viseur de la propagande russe avec de faux reportages en pagaille sur les réseaux sociaux. Le journal de 7h30 sur Europe 1, Victor Porcher. Bonjour Victor.
Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Hors de question d'utiliser le sport pour promouvoir la religion musulmane. L'État vient de sanctionner le club de 7 pour pratique communautaire. En cause, un logo plus qu'ambigu arboré pendant des années et le choix délibéré d'empêcher la création d'une section féminine. Sur place, c'est le choc et l'incompréhension. Reportage Europe 1 signé Charles L'Huillier.
Ces footballeurs musulmans ont l'habitude de s'entraîner sur un terrain municipal qu'ils partagent avec d'autres clubs et donc d'autres joueurs abasourdis.
Mélanger la religion avec le sport, c'est pas bon. Et c'est ce qui se passe.
J'apprends des choses quand même qui me choquent un peu. Nous, on n'est pas du tout dans le communautarisme où on ne veut pas de femmes, pas du tout là-dedans.
Il y a eu en effet refus délibéré d'ouvrir une section féminine. Il y a aussi ce mystérieux logo remplacé Manu Militari en juin dernier suite à un contrôle. Et cela interroge Hervé Marquez, élu au sport à la ville de Sète.
C'est un croissant de lune, donc. Nous avons décidé de suivre les motivations du préfet à la lettre. Donc, défaut de neutralité, du fait d'un signe emblématique de la religion musulmane pour le logo du club. Je crois que ces choses sont claires.
La ville va donc priver le club de ses 8000 euros de subventions annuelles en plus de ses terrains municipaux.
Le contrat que nous avions pris avec eux, il y a le contrat d'engagement républicain et la charte de la laïcité. Et aujourd'hui, le contrat de confiance est rompu. La laïcité n'y est plus.
Le club a d'ores et déjà prévu de faire appel et refuse pour l'instant toute sollicitation médiatique. À 7, Charles L'Huillier, Europe.
Et dans ce cas, cette fois-ci, on est loin du proxénétisme, mais bien dans une affaire terroriste en Haute-Savoie où un adolescent a été placé en garde à vue. Il projetait de commettre un attentat au nom de l'État islamique lors des Jeux Olympiques. Le jeune de 16 ans était suivi par les renseignements pour sa radicalisation. Une enquête est ouverte.
Cette information, Europe 1, à présent, l'exécutif donne ses consignes pour contrer les abattages illégaux de moutons lors de l'Aïd el-Kébir, programmée mi-juin.
Cette grande fête musulmane, vous l'avez dit, à la mi-juin, lors de laquelle seront égorgés, selon un rituel religieux, environ 100 000 moutons. Une demande très forte, en très peu de temps, qui amène des dérives. Tout un circuit parallèle se met en place et les préfets sont appelés à prendre des mesures, William Molinier.
Une quarantaine de moutons agglutinés dans un HLM de Nice, des carcasses retrouvées sur la voie publique, des bêtes dans des boxes de garage. Ces scènes se sont multipliées l'année dernière à l'approche de l'Aïd el-Kébir. L'agneau, tourné vers la Mecque, doit être saigné à la gorge et vidé de son sang. À l'approche de cette fête très importante dans le calendrier musulman, les abattoirs légaux sont rapidement saturés, les prix s'envolent et des circuits parallèles se développent. Alors pour débusquer les structures clandestines, Gérald Darmanin a demandé la semaine dernière au préfet de s'organiser bien en amont dans un téléphone. télégramme qu'Europe 1 s'est procuré, il recommande notamment de prévoir des fourrières temporaires pour y stocker les bêtes illégales et de multiplier les contrôles sur les sites d'approvisionnement. C'est devenu quasiment impossible d'aller dans une cité quand le sacrifice a commencé, concède un policier. Trop de tension, le risque d'émeute y est trop fort. Tout se joue donc dans les semaines précédentes. Les bêtes saisies sont remises à la Fondation Brigitte Bardot. Selon l'Association de défense des animaux, 300 moutons ont ainsi été sauvés l'année dernière de l'égorgement sauvage, dont la moitié en Île-de-France.
William Molinier pour Europe 1, la politique à présent, et on l'appelle Sorbonne 2, le discours que prononcera Emmanuel Macron dans le grand amphithéâtre de l'université parisienne. Comme le premier, en 2017, il sera largement consacré à l'Europe en pleine campagne des européennes. Timing opportun donc pour le président de la République. Timing beaucoup plus problématique en ce qui concerne la grève des contrôleurs aériens. Le principal syndicat a bien levé son préavis hier. Oui, mais trop tard pour éviter une cascade d'annulations de vols aujourd'hui, Aurélien Fleureau.
Oui, des dizaines de milliers de passagers ne pourront pas prendre leur avion aujourd'hui. La Direction générale de l'aviation civile a pu actualiser ses demandes auprès des compagnies aériennes. Et par exemple, à Orly, rien ne change. 3 vols annulés sur 4. En revanche, à Roissy-Charles-de-Gaulle, Air France a réussi à sauver quelques vols. Mais 55% des trajets seront supprimés. Ce sera un peu mieux dans les autres aéroports du pays. 45% du trafic assuré en moyenne, mais seulement un tiers à Marseille. Provence. Si les détails n'ont pas entièrement filtré, le ministère des Transports a salué un accord gagnant-gagnant. Plus de productivité, de sécurité et moins de retard, c'est la promesse. Et en contrepartie, les syndicats ont obtenu gain de cause sur plusieurs de leurs revendications en termes de salaire, de jours de récupération et probablement un point d'indice rehaussé en fin de carrière, suffisant pour lever le préavis pour le pont de l'Ascension et peut-être commencer pour de bon la trêve olympique.
Aurélien Fleureau pour Europe 1. Bonne nouvelle, ça, c'est tout de même que la menace d'une grève lors des ponts du mois de mai est écartée pour les contrôleurs aériens. Dans la actualité également. Faut-il prendre exemple sur l'accord Royaume-Uni-Rwanda? C'est-à-dire, faut-il une loi en France pour expulser plus facilement, plus efficacement les migrants illégaux vers un pays tiers? Vous dites oui à 67% ce matin. C'est le résultat du sondage CSA pour Europe 1, CNews et le journal du dimanche.
Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h35.
Faire du profit avec la gestation pour autrui. Le Parlement européen l'assimile cette pratique désormais à du trafic d'êtres humains.
Une directive très largement votée par les eurodéputés en début de semaine qui ouvre la voie à des sanctions pénales contre certaines pratiques de mères porteuses et une directive que l'obstétricien René Friedman estime cohérente.
Ça correspond à la réalité. Il y a des pays qui avaient reconnu la GPA qui sont en train de réfléchir à faire marche arrière. C'est une bonne chose. Il y a des courants de pensée qui regardent que le bénéfice attendu pour les couples en demande. Quand on voit ce qui se passe avec des femmes porteuses au Vietnam, qui sont au Laos, dans des situations économiques pour la plupart redoutables, on comprend bien qu'on est dans une forme d'esclavage, oui, effectivement. Et une femme qui est enceinte, par exemple, après un don d'ovocytes, on lui dit que c'est elle la mère, même si c'est un ovocyte d'une autre femme, parce qu'elle l'a porté, elle a échangé avec lui et qu'elle va l'élever. On ne peut pas avoir un discours contradictoire en disant « mais vous, vous allez porter un enfant, vous allez vous en séparer parce que vous avez signé un contrat ». C'est ça la critique de l'esclavage, c'est que c'est des contrats qui sont redoutables.
L'obstétricien René Friedman au micro Europe 1 de Mayalène Trémollet. À l'étranger, l'aide militaire américaine sera en chemin pour l'Ukraine dans les prochaines heures. C'est ce qu'annonce Joe Biden après l'approbation définitive par le Congrès américain de l'aide à Kiev. 61 milliards de dollars discutés, âprement débattus durant des mois aux États-Unis. Le président américain qui juge par ailleurs possible des avancées prochaines russes sur le front ukrainien.
Et la Russie qui mène également une guerre de l'information contre la France et contre les Jeux Olympiques.
Les faux reportages français sur les JO se multiplient sur les réseaux sociaux. Des opérations, des manœuvres numériques d'influence qui inquiètent les renseignements, Jean-Baptiste Marty.
Une musique de fond anxiogène. Des identités visuelles de médias français imitées, comme sur un reportage de TF1 repris sans la voix du journaliste et cette fausse information en sous-titre, les Parisiennes sont invitées à accoucher avant les Jeux Olympiques pour libérer les lits pendant l'événement, ou cet autre reportage repris de France 24 avec son logo et expliquant que le site de location Airbnb ne remboursera aucune réservation pendant la compétition en cas d'annulation. Là encore un mensonge, une stratégie de désinformation selon David Collomb, avec un objectif final bien identifié.
De fragiliser l'image de notre pays et de ses dirigeants dans le monde. Et de ce point de vue-là, les Jeux Olympiques représentent une occasion unique en diffusant des narratifs remettant en cause la capacité de notre pays à mener à bien ce grand événement.
Des opérations sur les réseaux sociaux qui s'ajoutent à d'autres comme les Étoiles de David dans le 14e arrondissement de Paris en octobre dernier et cette crainte pour le renseignement que l'accumulation de ces fausses informations touche les anti-JO en France, des contestataires prêts à perturber le bon déroulé de l'événement.
Jean-Baptiste Marty pour Europe 1. Et puis c'est un fils qui rend un hommage vibrant à sa légende de père.
Au-delà de nos différences.
Vous avez sûrement reconnu les voix mêlées de David Hallyday et de Johnny Hallyday. David Hallyday qui a dévoilé ce clip hier de 100%, hein, une musique qui reprend d'ailleurs et qui raconte les relations entre ce père et ce fils. À l'occasion aussi pour annoncer ce futur album, Requiem pour un fou, où David Hallyday reprendra les chansons de son père. Il y aura aussi une tournée qui démarrera à l'automne.
Bah dis donc, vous avez l'air d'apprécier.
J'adore.
Ah bah alors soyez là au rendez-vous parce que David Hallyday sera l'invité de Culture Média demain entre 9h30 et 11h sur Europe 1.
Je serai à l'heure.
Allez tous à vos agendas. Merci beaucoup Victor Pourchet, c'était votre journal. À suivre dans un instant sur Europe 1, l'édito international. On va parler de l'Allemagne, Berlin, nid d'espions. Rien ne va plus pour l'AfD, le grand parti de la droite populiste allemande, qui croule sous les scandales d'ingérence au profit de la Russie et de la Chine. Vincent Hervouet va nous raconter dans un instant.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Merci d'avoir choisi Europe 1 pour débuter votre journée. Il est 7h42, Dimitri Pavlenko.
Dans 10 minutes, votre édito politique, on va parler du discours d'Emmanuel Macron aujourd'hui à la Sorbonne, le deuxième pour lui, le second pour lui en 7 ans. Tiens, justement, quel bilan on peut tirer du premier discours de la Sorbonne, celui de 2017? Nous verrons cela avec Vincent Trémollet de Villers. Le Club Culture d'Europe 1 matin, avec la sortie de la semaine. Bonjour Marie Jiquel.
Bonjour Dimitri, impossible de manquer cet hommage à Françoise Hardy lors du premier festival de l'été. On va partir au printemps de Bourges.
Festival de printemps donc, on verra ça avec vous Marie. Le livre du jour, Nicolas Caro. Bonjour Nicolas.
Bonjour, il sera question de coiffure et de Marcel Proust.
Allez, à tout de suite. Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouet.
Bonjour Dimitri Pavlenko, bonjour à tous.
J'ai l'impression qu'il se moque de moi quand il me dit bonjour.
Non, pas du tout. Hein bonjour, j'ai l'impression de se rencontrer.
Oui, oui, bah c'est le cas. Vous revenez Vincent ce matin sur le scandale qui ébranle la droite ultra en Allemagne, la tête de liste de l'AfD aux élections européennes est accusée de corruption. L'un de ses assistants lui est convaincu d'espionnage au profit de la Chine.
Oui, alors l'intitulé de l'enquête du parquet de Dresde... Existe-t-il un soupçon de corruption du député Maximilien Krah ? Poser ainsi la question, c'est y répondre. S'il n'y avait pas de soupçon, il n'y aurait pas d'enquête. Derrière ce syllogisme, on est peut-être tenté de voir un règlement de compte politique à quelques semaines du scrutin. Après tout, Donald Trump a été soupçonné pendant tout son mandat d'avoir été stipendié par les Russes. C'est à peine si le KGB n'avait pas bourré les urnes. Les médias spéculaient sur les contacts entretenus par le milliardaire et son entourage à Moscou. Les rumeurs salaces ont couru pendant 4 ans. Avant que le FBI boucle l'enquête en avouant n'avoir rien trouvé.
Bon, effectivement, ça devrait nous rendre méfiants. Hein.
Mais pour son malheur, Maximilien Krah a un assistant parlementaire d'origine chinoise qui dort derrière les barreaux. Selon les services de contre-espionnage allemands, il surveillait à Berlin les dissidents chinois et à Bruxelles, sous couvert d'un lobbying discret, il rassemblait des infos sensibles transmises à son agent traitant au sein du ministère de la Sécurité de l'État chinois. Ainsi assisté, le député Maximilien Krah aurait eu intérêt à faire attention où il mettait les pieds. Ce n'est visiblement pas le genre de champagne Max. Il n'est pas trop regardant sur ses fréquentations. Et il est rentré de Chine, farouche partisan de Huawei pour la 5G. Il aurait aussi touché de l'argent russe. Ça, c'est le FBI qui l'a fait savoir.
Alors, il dément hein, Maximilien Krah, mais il est trop tard pour le remplacer à la tête de liste de l'AfD qui a déjà perdu 5 points dans les sondages.
Olaf Scholz s'en réjouit, mais il dit qu'il est très, très préoccupé. Il a raison de le répéter deux fois, puisque cette semaine, la justice a arrêté d'autres espions qui fournissaient à la marine de guerre chinoise des infos sur les technologies innovantes. Et ces affaires prouvent que le pillage de l'Europe est permanent, massif, systématique. Les services chinois espionnent les entreprises, piquent les brevets, pénètre les institutions et façonne un peu, au moins, les opinions publiques. Cette semaine encore, deux trentenaires ont été inculpés à Londres. Là encore, d'anciens assistants parlementaires qui glanaient les infos sensibles auprès de la secrétaire d'État de la Sécurité et de la Commission des Affaires étrangères.
Mais personne, Vincent, ne sait combien il y a d'espions chinois.
100 000 ou peut-être 200 000 au ministère de la Sécurité d'État. Et il y a tout le reste, hein, les militaires, les diplomates, les universitaires, enrôlés dans une quête permanente de renseignements. À Bruxelles, siège de l'OTAN, de l'Union européenne, d'une kyrielle de multinationales, la police évalue à 250 seulement le nombre d'agents chinois, aux doigts mouillés, avec une main sur les yeux et beaucoup d'optimisme. Mais il y a pire que cette naïveté. Prenez le Royaume-Uni, par exemple, tellement choqué que deux bons garçons aient écouté aux portes de la Chambre des communes. Les Britanniques feraient mieux de s'interroger sur leur ministre des Affaires étrangères. Quand il dirigeait le gouvernement, David Cameron avait annoncé l'âge d'or avec la Chine, dont le Royaume-Uni serait le meilleur allié en Occident. Il a ouvert les portes du nucléaire et des télécoms aux Chinois, que ses successeurs sont bien en peine de refermer. Après le gouvernement, en guise de pantouflage, il a été catapulté à la vice-présidence d'un fonds d'investissement chinois d'$1 milliard. Il s'est aussi occupé d'un projet chinois à $3 milliards au Sri Lanka. Et cette semaine, eh bien, le Foreign Office a refusé de révéler si le ministre s'était récusé de certains dossiers avec la Chine en raison d'un possible conflit d'intérêts. Champagne Max, c'est vraiment le bambou qui cache la forêt. Tiens, je vais le répéter, comme fait Olaf Scholz, c'est le bambou qui cache la forêt.
Le très très international édito de Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent, signature Europe 1, 7h46.
7h-9h, Europe 1 matin.
Le livre du jour, Nicolas Caro, ce matin, c'est un petit poche. Vous nous parlez du roman de Stéphane Carlier.
Clara lit Proust, c'est le titre qui vient de paraître chez Folio, l'histoire de Clara, mais ça commence chez Cindy. Cindy Coiffure, c'est un salon de coiffure, donc celui de Jacqueline Habib, née Delage, un beau personnage, Jacqueline, fan de Jacques Chirac, parce qu'il est beau. Quand elle décroche le téléphone du salon, vous savez, elle enlève d'abord sa boucle d'oreille droite à clips avant de poser le combiné sur son oreille. On est en Saône-et-Loire, le salon... Oh bah c'est pas un Jacques Dessange ou un Jean-Claude Biguine, hein. C'est un petit salon de quartier qui survit grâce à ses habitués, mais qui au moins, et c'est la fierté de Madame Habib, n'a pas cédé à la tentation d'un jeu de mots avec tif.
Oui, qualitatif, prototif, etc.
Exactement, ça existe aussi avec R, Voltaire, Rocker, on les connaît. Mais enfin, c'est un problème quand même ce nom Cindy Coiffure, puisque Cindy c'était la fille de l'ancien propriétaire. Bref, je passe là-dessus. Dans ce salon, il y a Nolwenn aussi et Patrick. Et puis Clara, donc Clara ça va, franchement elle est jeune, 23 ans, elle est chouette, elle vit avec un chat qui n'aime pas les caresses et elle est avec JB, pompier beau gosse, qui se fait draguer par Jacqueline d'ailleurs quand il passe au salon. Mais bon, elle est plus trop amoureuse en fait et sa vie est un peu trop réglée, sans trop de relief, un peu morose.
Mais quel rapport avec Proust hein ?
Ça arrive. Un jour, un client oublie un roman dans le salon, un livre de poche, c'est Du côté de chez Swann, le premier tome de À la recherche du temps perdu, de Marcel Proust. Le client n'est jamais repassé et Clara a rangé le bouquin dans un tiroir. Et puis un jour, elle s'y met. Et tout à coup, un peu comme si elle avait croqué dans une madeleine, l'ambiance, les décors, les ombrelles, les robes la téléportent dans son enfance. Elle revoit un tableau familier de chez sa nourrice. Elle continue, elle a un peu de mal au début avec les phrases à rallonge, les imparfaits du subjonctif, les digressions, mais elle s'accroche et ça l'obsède. Elle pense à Combray, le village de Proust, comme si c'était chez elle. Elle manque son arrêt de bus pour la première fois. Elle vit maintenant dans la recherche. C'est tout un monde qui s'ouvre et cette lecture va changer sa vie, mais pour de vrai. Comment ? Bah ça, il faut lire pour savoir. C'est un hommage à la littérature, vous avez compris, à son pouvoir, à sa capacité de changer les points de vue sur le monde. Mais pas seulement, les personnages sont aussi très drôles, très bien dessinés. C'est réjouissant.
Clara lit Proust, donc livre...
Stéphane Carlier.
Stéphane Carlier, merci beaucoup. En forme à poche, merci Nicolas Caro. La sortie de la semaine à présent, direction Bourges, avec vous Marie Jiquel. La 48e édition du Printemps de Bourges a commencé mardi, elle dure jusqu'à dimanche. On attend 250 000 visiteurs. Vous avez assisté à l'une des premières soirées hier, c'est une création qui s'appelle Message personnel. C'est un hommage à Françoise Hardy.
Oui, alors cet hommage, c'était presque une pause enchanteresse hein, dans ce printemps où on entend les basses tout le temps. Un printemps qui se lançait hier en plus en grande pompe avec des scènes assourdissantes, électro-pop rock, avec Kyo, le DJ Martin Solveig et Mika, face à un public, vous l'imaginez, déchaîné. Et puis, il y avait ce moment suspendu... en début de soirée. Cet hommage à Françoise Hardy, orchestré par l'artiste Sage de l'ancien groupe Revolver. Une scène à l'ambiance intimiste, portée par la nouvelle génération française avec Clara Luciani ou Zao de Sagazan, entre autres. Des artistes presque timides, humbles face au répertoire de Françoise Hardy, à l'aura puissante. Alors cela faisait longtemps que le Printemps de Bourges désirait cet hommage. On va écouter le directeur du festival, Boris Vedel.
Alors Françoise Hardy est très attentive à cette création. Vous savez qu'elle est malade, elle s'en cache pas. Et moi, il y a quelque chose qui m'a touché, c'est que l'un des derniers messages qu'elle nous est transmis, c'est « mettez-y de l'humour ». Voilà, il y a un répertoire, il y a des chansons. Elle prend la parole pour d'autres sujets, plus graves, et qu'elle parle d'humour, je trouve ça assez fascinant.
Vous l'avez compris, des reprises de Françoise Hardy, mais cette sélection ne comprenait pas les chansons les plus connues de Françoise Hardy. Sage a décidé de mettre en avant des titres plus mélancoliques comme La Question, issue de l'album du même titre, hein, qui serait l'album préféré d'ailleurs de Françoise Hardy, et d'autres titres comme Un peu d'eau ou Ma jeunesse fout le camp.
Au départ, j'avais fait ma sélection de chansons et puis j'ai reçu un mail de Françoise Hardy m'envoyant une liste de 50 morceaux et me disant « Voici pour moi les 50 chansons que personne ne reprend jamais et qui doivent être absolument reprises. » Il n'y avait pas une seule que j'avais choisie. Et c'était que des chansons toutes plus obscures les unes que les autres et beaucoup de chansons qu'elle avait composées et écrites elle-même aussi. Et je pense qu'elle avait envie qu'on mette l'accent aussi sur cet aspect-là de son art.
Voilà un hommage réussi face à un public très sage, presque hypnotisé. Un hommage touchant et gracieux à l'image de Françoise Hardy.
Un message personnel, hommage à Françoise Hardy. Et un autre hommage ce soir, toujours à Bourges, hommage à Bob Dylan, cette fois-ci mené par la chanteuse américaine Cat Power. Et le Printemps de Bourges, c'est jusqu'à dimanche. Voilà les amis, merci d'être venus nous voir ce matin. Revenez quand vous voulez, dès demain par exemple, très bonne idée. Dans un instant, votre édito politique. Non, bon week-end Vincent. Votre édito politique dans un instant, juste après, le journal permanent signé Victor Porcher sur Europe 1.
Le Moulin Rouge a perdu ses ailes cette nuit. Une partie du célèbre monument parisien s'est effondrée, ne faisant heureusement aucun blessé selon les pompiers. Les raisons de cette chute sont pour le moment inconnues. Pour ou contre imiter le Royaume-Uni avec le Rwanda? Oui ou non à une loi en France pour expulser plus efficacement les migrants illégaux vers un pays tiers? Vous dites oui à 67% selon le sondage CSA pour Europe 1 CNews et le journal du dimanche. L'offensive israélienne au sud du Liban, 40 positions du Hezbollah libanais allié du Hamas palestinien ont été pilonnées par l'aviation et l'artillerie israélienne, mais aucun soldat de Tsahal n'a franchi la frontière. Et puis en football, le titre de Ligue 1 pour Paris, c'est pas pour tout de suite. Le PSG a bien gagné hier soir 4 buts à 1 contre Lorient, mais la victoire du deuxième Monaco contre Lille 1 but à 0 retarde encore un peu l'échéance.
7h-9h, Europe 1 Matin.
L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers.
Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à
bonjour
tous.
Bonjour Vincent.
Vincent, aujourd'hui à la Sorbonne, Emmanuel Macron va prononcer un discours sur l'Europe 7 ans après être intervenu au même endroit. Alors la chose est présentée comme un événement de la campagne des européennes. Est-ce le cas?
On s'était dit rendez-vous dans 7 ans, Dimitri, même lieu, même thème, même tribune. Mais comme dit la chanson, le temps passe et il efface beaucoup de choses. Et en premier lieu, nos illusions. En 2017, le discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron était un discours d'engagement. Et le problème des engagements, quand ils sont écrits, c'est qu'on peut les relire. C'est ce que j'ai fait. Et ça donne une impression bizarre, comme si on se trouvait après une fête devant une guirlande dont la plupart des ampoules sont désormais éteintes. Certes, dans ce texte, il y a déjà les tours de bonneteau sémantique, souveraineté européenne, défense commune, toutes ces formules pour ne pas dire tout simplement le mot qui fâche, c'est-à-dire fédéralisme. Mais pour le reste, c'est un formidable inventaire de promesses non tenues. Sur la maîtrise de l'immigration, Emmanuel Macron disait que la France montrerait l'exemple à l'Europe. On connaît la suite. Sur la transition écologique, le président l'annonce comme un modèle enchanteur. C'est devenu un carcan infernal dont même Ursula von der Leyen essaye de se libérer. Et puis dans ce discours, on trouve des phrases terribles pour ceux qui nous gouvernent. On y lit par exemple... La politique agricole ne doit pas être une politique de suradministration. Ce n'est pas au salon de l'agriculture cette année, hein, mais c'est en 2017. Ou encore, dit le président, je souhaite que notre partenariat avec l'Afrique soit un élément de la refonte du projet européen. La France a été évacuée d'Afrique depuis et le projet européen avec ce continent est au point mort.
Alors, il y a eu aussi quelques avancées européennes, il faut le dire Vincent, depuis 7 ans. Hein.
Oui, quelques accords pour taxer les géants du numérique sans que l'on ait aucune nouvelle du Google européen. On y trouve aussi les prémices de la création d'une dette commune 3 ans avant le Covid, ce que la majorité revendique comme une géniale prémonition du président. Mais on peut aussi y voir l'extension à l'échelle du continent du mal français, c'est-à-dire la dette avec son corollaire, l'impôt. C'est d'ailleurs ce que défendent les macronistes au Parlement européen. Donner à Bruxelles une compétence fiscale, même à la majorité qualifiée, permettra à l'Europe de prélever de nouveaux impôts.
Mais pensez-vous, Vincent, que le discours du jour, ce discours Sorbonne 2, peut au moins avoir des conséquences électorales ?
J'en doute un peu, même si le président va essayer de réveiller une nostalgie, de ressusciter le temps où il incarnait toutes les espérances. Mais pour rallumer les étoiles de son rêve européen, il faudra qu'il use de toutes les ressources de l'éloquence. Depuis quelques jours, ses conseillers, une partie du commentariat, accordent un pouvoir presque magique à ce rendez-vous de la Sorbonne. Pourtant, ce discours peut aussi être un amplificateur de l'antimacronisme dont profite aujourd'hui Jordan Bardella. D'autant que dans l'opinion, les agences de notation ont dégradé la note du président depuis déjà bien longtemps. C'est pour cela que ce discours ne devrait pas bouleverser en profondeur les équilibres électoraux. On peut toutefois trouver deux effets immédiats à ce grand oral. Le premier, c'est qu'Emmanuel Macron va essayer de faire mousser son projet européen pour faire oublier la menace que les agences de notation font peser sur le pays. Je vous rappelle que demain vendredi, nous attendons la décision de Fitch et de Moody's. Le second effet, et là il faut s'en réjouir, à 6 semaines du scrutin, nous allons enfin parler d'Europe. Pas de Gaza, pas de la dissolution de l'Assemblée, pas de Chamberlain ou d'Ayana Kamoura, mais d'une institution certes lointaine, complexe, hostile parfois, mais qui décide en partie de notre avenir et qui est l'objet de cette élection. Il reste encore un gros mois de campagne et je voudrais finir, si vous le voulez bien, par une supplique aux candidats. Parlez-nous d'Europe, dites-nous des choses intéressantes.
L'édito politique sur Europe 1, merci Vincent Trébolet de Villers. À la une du Figaro ce matin, les élections européennes justement, et Emmanuel Macron qui entre en campagne pour sauver son camp. Merci beaucoup Vincent, à demain.
Il est 7h56, vous écoutez Europe 1 et nous sommes le jeudi 25 avril.
Une pensée pour Anne ce matin et nous fêtons ce jour Saint-Marc qui ne fut pas disciple de Jésus. En revanche, il est l'un des premiers évangélistes et il fut aussi le secrétaire de Saint-Pierre qu'il appelait mon fils. Les mémoires de Saint-Pierre rédigées par Marc figurent dans la Bible. C'est l'évangile selon Saint-Marc à l'intention des Romains. Bon réveil avec Europe 1. Vous retrouvez à partir de 8h30 Gaspard Proust juste après l'invité de la grande interview Europe 1 CNews. Le député socialiste de l'Essonne, Jérôme Guedj, sera face à Sonia Mabrouk. Nous sommes le jeudi 25 avril, il est 8h.
Europe 1 matin. 7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
Plus question de faire du profit avec la gestation pour autrui. Le Parlement européen met le holà à l'exploitation de la GPA. Est désormais considérée comme un crime et assimilée par Bruxelles à une traite des êtres humains. Le témoignage dans un instant saisissant de notre invité de ce matin à 7h10, née elle-même de mère porteuse dans un instant. Quand il faut y aller, faut y aller. Emmanuel Macron se retrousse les manches. Discours sur l'Europe à la Sorbonne ce matin. Objectif pour lui tenter de relancer la campagne de Valérie Ayer, la candidate Renaissance aux élections européenne. La France du plein emploi, elle aussi, attendra. Les nouveaux chiffres du chômage en France seront dévoilés à la mi-journée. Ils ne devraient pas être très bons. Et puis, dans ce journal également, une vidéo, nouvelle preuve de vie d'un otage israélien aux mains du Hamas. Ses parents lancent un appel et font le vœu d'un accord pour libérer tous les otages. 8h10, juste après ce journal, votre invité Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Quel est, selon vous, le candidat le plus européen de cette campagne ? Raphaël Glucksmann ou Valérie Ayer ? Peut-être Emmanuel Macron qui va décliner tout à l'heure sa vision de l'Europe sans doute fédéraliste. On en parle avec le député socialiste Jérôme Guedj. À tout à l'heure.
Europe 1. Mais d'abord le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'exploitation de la GPA, la gestation pour autrui, est désormais un crime en Europe. Le Parlement européen l'inclut depuis mardi dans la liste des traites d'êtres humains, au même titre que l'esclavage, le mariage forcé ou l'adoption illégale. Des sanctions vont être prévues pour ceux qui obligent les femmes à être mères porteuses. Une pratique qu'a lourdement condamné la tête de liste Reconquête pour les élections européennes, Marion Maréchal, hier soir sur CNews.
Jamais je n'accepterai qu'on banalise le fait de louer le ventre d'une femme pour une grossesse. Je ne suis pas un produit à louer, mon utérus n'est pas un produit à louer, les enfants ne sont pas des biens de consommation, ce ne sont pas des biens à vendre qui peuvent faire l'objet d'un contrat. Dans les contrats de mères porteuses dans un certain nombre de pays étrangers, vous avez par exemple des garanties de 2 ans. Ça veut dire que on pose une garantie sur l'enfant. S'il décède, y compris pour des raisons domestiques ou un accident de voiture 2 ans après le contrat, on vous le remplace. Je ne m'habitue pas à la banalisation de cette pratique qui, je le dis, le plus franchement possible, est pour moi monstrueuse et honteuse.
Mario Maréchal qui a reçu une pluie de menaces et d'insultes après ses propos anti-GPA sur X. Propos que défend en revanche Olivia Morel, porte-parole de la déclaration de Casablanca, elle-même née d'une mère porteuse, ce que ses parents lui ont longtemps caché. Elle était l'invitée d'Europe 1 Matin à 7h10.
Ils ne me l'ont pas dit, je pense, parce qu'ils ne savaient pas comment me le dire. Et je leur en veux pas du tout, mais absolument pas. Ce n'est pas le mensonge, le problème, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, je parle à d'autres enfants qui sont nés par gestation pour autrui. Et c'est que des filles d'ailleurs, toutes ces jeunes filles l'ont su depuis la naissance et ont souffert autant que moi. Et ce n'est pas le mensonge qui a causé mes problèmes, c'est vraiment l'arrachement à ma mère à la naissance qui a causé tous les troubles. C'est ce syndrome de l'abandon, c'est ce problème d'identité. Moi, je voyais qu'il y avait un décalage avec ma mère, je voyais qu'elle était beaucoup plus âgée que la normale. Voilà, on a plein de signaux qui viennent de l'extérieur. On le sent, on le ressent. On ressent aussi qu'on n'est peut-être pas à sa place. Un peu comme les enfants adoptés.
Olivia Morel, invitée d'Europe 1 Matin, témoignage à retrouver sur europe1.fr. Notez que les pays européens ont 2 ans pour mettre en œuvre cette directive européenne qui criminalise l'exploitation de la gestation pour autrui.
L'Europe, justement au cœur du discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne ce matin.
7 ans après un premier plaidoyer qui avait fait date, le chef de l'État compte faire le bilan de ce qui a été accompli et préparer le prochain agenda stratégique de l'Union européenne. Il s'agit aussi et surtout de relancer la candidature de la tête de liste Renaissance Valérie Ayer à la peine dans les sondages, Alexandre Chauveau.
Emmanuel Macron en est convaincu, lui seul peut inverser la tendance. La candidature de Valérie Ayer ne décolle pas, alors le chef de l'État convoque l'agenda stratégique de l'Union pour rentrer en campagne. 5 ans après avoir volé au secours d'une Nathalie Loiseau déjà en difficulté, Emmanuel Macron entend rééditer l'exploit. Plusieurs ministres y voient le vrai point de départ de la campagne. Le programme de Valérie Ayer devrait d'ailleurs rapidement suivre, tout comme la composition de la liste, toujours inconnue à ce stade. Mais la tâche d'Emmanuel Macron apparaît cette fois moins aisée. La faute à l'usure du pouvoir. Après 7 ans passés à l'Élysée, il donne moins envie qu'avant, constate une députée Renaissance sur les marchés. Les Français ont un rapport plus critique que nous à l'Europe, ajoute-t-elle, en citant notamment l'incompréhension suscitée par le prix de l'électricité fixé par le marché européen de l'énergie. Confronté aux dynamiques de Jordan Bardella et de Raphaël Glucksmann, Emmanuel Macron compte donc peser de tout son poids pour tenter de sauver le résultat d'une élection qui déterminera le paysage politique jusqu'à la fin de son quinquennat.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. La France se laissera-t-elle tenter par l'exemple britannique alors que le Royaume-Uni a voté l'expulsion systématique de tout clandestin vers le Rwanda en début de semaine? Un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD révèle ce matin que 67% des Français sont favorables à une mesure similaire pour lutter contre l'immigration illégale dans notre pays.
L'actualité à l'étranger est cet espoir pour les familles d'otages en Israël.
Une vidéo envoyée par le Hamas dans laquelle on peut voir Hersh Goldberg-Polin, 24 ans, américano-israélien, kidnappé lors du festival Nova le 7 octobre dernier. Il y apparaît amputé de la main et d'une partie du bras gauche. Mais c'est une preuve de vie qui a déclenché des manifestations des familles d'otages à Jérusalem. Les parents de Hersh ont publié une vidéo pour répondre à celle de leur fils et appeler aux négociations afin de le faire libérer.
Nous sommes soulagés de le voir vivant, mais nous sommes également préoccupés par sa santé et son bien-être, ainsi que par ceux de tous les autres otages. Nous sommes ici aujourd'hui pour lancer un appel à tous les dirigeants des partis qui ont négocié jusqu'à présent. Soyez courageux, saisissez ce moment et concluez un accord pour nous réunir tous avec nos proches et mettre fin aux souffrances dans cette région.
Hersh, nous avons entendu ta voix aujourd'hui pour la première fois en 201 jours. Et si tu peux nous entendre, nous te le disons, nous t'aimons, reste fort, survie.
Le témoignage très ému des parents de Hersh Goldberg-Polin. La menace terroriste plus forte que jamais également en France. À moins de 100 jours des Jeux Olympiques, un adolescent de 16 ans radicalisé a été interpellé chez ses parents en Haute-Savoie mardi, soupçonné de projeter un attentat pendant la compétition à la Défense.
Vous écoutez Europe 1 Matin, il est 8h07.
Mais quelle note pour la France? Les agences Fitch et Moody's se prononcent demain.
Verront-elles les efforts du gouvernement pour redresser les finances publiques, la simplification des normes, la réindustrialisation, la stimulation de la croissance ou l'objectif du plein emploi? Enfin, sur ce point-là, ce n'est pas encore gagné, Margot Fodéré. Les chiffres de l'emploi pour le premier trimestre vont être dévoilés aujourd'hui à midi et le chômage devrait continuer sa hausse.
Oui, les économistes s'attendent à une nouvelle hausse, légère, mais une hausse tout de même du nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A au début de l'année, c'est-à-dire ceux sans aucune activité. Depuis plusieurs semaines, le marché de l'emploi est plombé par le ralentissement de l'économie. De leur côté, les entreprises ferment les vannes des recrutements, explique Eric Heyer, économiste à l'OFCE.
C'est des problèmes de demande. Les carnets de commandes aujourd'hui sont vides. Donc les entreprises, là, ne cherchent plus à recruter.
Sur les 3 premiers mois de l'année, les déclarations d'embauche de plus d'un mois hors intérim ont reculé, selon les chiffres de l'URSSAF, de quoi faire augmenter donc le nombre de Français sans emploi, et cela pourrait continuer dans les prochaines semaines avec l'entrée en vigueur de la réforme France Travail.
À partir de janvier 2025, tous les demandeurs de RSA et tous les bénéficiaires de RSA vont devoir s'inscrire à France Travail. Donc ça peut faire une somme assez gigantesque qui va dépasser le million de nouvelles personnes qui devront s'inscrire.
Sans oublier d'autres obstacles qui limitent encore le plein emploi et la mobilité des salariés en France, comme la pénurie de logements.
Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. Le bal des avions au ralenti aujourd'hui, malgré la levée du préavis de grève du principal syndicat des contrôleurs aériens. L'accord avec la direction générale de l'aviation civile est intervenu trop tard. Conséquence, 75% d'annulation des vols à Orly, soit 55% à Roissy et des aéroports régionaux impactés.
Et à Paris, la grosse surprise ce matin pour les habitants du 18e arrondissement.
Ah mais le Moulin Rouge, il est tombé ! Le Moulin Rouge, il est tombé ! C'est quoi ce délire ?
Eh oui, les célèbres pales du Moulin Rouge se sont décrochées cette nuit vers 2h du matin. Elles se sont effondrées sur la chaussée. Le cabaret connu dans le monde entier est désormais privé de son enseigne lumineuse qui a été elle aussi endommagée lors de la chute des ailes. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer.
Alors, elle aussi, c'est un monument culturel. Amy Winehouse sur grand écran depuis hier.
13 ans après sa mort, son biopic promet d'attirer les foules. Mais si vous préférez l'intimité de votre salon pour écouter, pourquoi pas en même temps ses albums, pourquoi pas découvrir Amy en bande dessinée, son histoire agrémentée de nombreux documents et publiée aux éditions Petit à Petit, Sébastien Bordenave.
15 dessinateurs et trices ont œuvré sur cette BD qui s'appelle sobrement Amy Winehouse, et de la sobriété, il y en aura très peu dans cet album dont on connaît douloureusement la fin. Mais on apprend beaucoup, par exemple, l'amour d'Amy pour sa mamie Cynthia, ancienne chanteuse de jazz sur laquelle Glenn Miller a eu des vues, les cheveux de jet, le regard frondeur, les tatouages 50s et la choucroute capillaire, c'est elle l'inspiration. La BD décrit aussi parfaitement le drame crescendo que fut la vie d'Amy, l'eyeliner grossissant au fur et à mesure que sa silhouette maigrissait, pour les tristes raisons que l'on sait. Mitch Winehouse, le père absent, résume en déclarant « Le meilleur album du 21e siècle, Back to Black, parle du pire salaud que la Terre ait porté. Il parle de celui qui a entraîné Amy aux enfers, celui qui faisait passer de la drogue dans ses peluches quand elle était en cure de désintox. La BD Amy Winehouse nous fait totalement regretter la disparition de cette étoile foudroyante de la soul, en espérant qu'elle ait, en juillet 2011, refermé derrière elle la porte du Club des 27. »
Sébastien Bordenave.
Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal qui s'achève donc sur ces quelques notes d'Amy Winehouse.
Très bien Dimitri, bel accent.
Je me suis entraîné un petit peu.
Félicitations.
Allez, restez avec nous dans un instant sur Europe 1. Jérôme Guedj, le député socialiste de l'Essonne, sera l'invité de la grande interview Europe 1 CNews face à Sonia Mabrouk.
Europe 1 matin, 7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
N'oubliez pas 8h30, Gaspard Proust avec nous, juste après l'invité de Sonia Mabrouk, le député socialiste de l'Essonne, Jérôme Guedj.
Bienvenue et bonjour Jérôme Guedj.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Et merci de votre présence. Vous êtes député socialiste de l'Essonne, vous êtes également secrétaire national à la laïcité au parti, au PS. Dans l'actualité, monsieur Guedj, tout à l'heure, un discours à la Sorbonne comme en 2017 pour Emmanuel Macron sur l'Europe, c'est le discours Sorbonne 2. Est-ce que vous vous attendez à un discours du chef de l'État ou bien un discours de lancement du directeur de campagne de la majorité ?
Le simple fait que vous posiez la question pointe l'ambiguïté du choix du moment. Évidemment, on a la campagne des élections européennes de Valérie Ayer, disons-le sans être discourtois, qui patine, qui n'imprime pas. Quelle est l'orientation, quelle est la vision, est-ce qu'elle a un autre objectif que de sauver le soldat Macron, c'est-à-dire avec, pour l'instant, un résultat qui s'annonce très problématique pour la majorité relative présidentielle.
Là, c'est Emmanuel Macron qui va essayer de sauver le soldat Ayer, apparemment.
Oui, mais en se sauvant lui-même, parce que il avait tellement, il y a 7 ans, fait de la question européenne un élément identitaire. Et moi, je fais partie de ceux qui avaient été séduits, ou en tous les cas, intéressé par le volontarisme exprimé, notamment les intuitions du président de la République sur la nécessité d'un réarmement d'une souveraineté à l'échelle européenne. Le problème, c'est que en politique, il ne faut pas se payer de mots. Les intuitions exprimées par Emmanuel Macron en septembre 2017, elles ont peut-être été vérifiées par le cours de l'histoire, mais les réponses volontaristes, elles, se sont fracassées sur le louvoiement intrinsèque.
Fracassé. Sur toute la ligne, sur l'Europe,
prenons,
pour Emmanuel Macron.
Un seul point.
Allez-y.
Qui est essentiel. La question de la guerre en Ukraine a été un test évident sur la solidité de la position des Européens. Emmanuel Macron, en 2017, pointait la nécessité de la construction d'une Europe de la défense et d'une autonomie stratégique.
Ça mange le pas même, de pain, hein, c'est le serpent de mer de tout le monde. Ouais.
Sauf que deux ans après, en 2019, alors même qu'il y a déjà eu depuis 2014 la Crimée et le début au Donbass, le même Emmanuel Macron et Raphaël Glucksmann dans son discours fondateur, en tous les cas très principiel hier à Strasbourg, l'a rappelé, le même Emmanuel Macron en 2019 dit « il faut que nous fassions un front commun » entre l'Union européenne et la Russie. Et on a vu ces atermoiements dans le positionnement par rapport à Vladimir Poutine. Même chose sur la question de la souveraineté sur les questions énergétiques ou sur les questions industrielles.
Arrêtons-nous sur ce point parce que vous avez utilisé le mot, et c'est ce que dit Emmanuel Macron, de souveraineté européenne. Très certainement, Jérôme Guedj, qu'Emmanuel Macron va insister sur ça tout à l'heure, sur la défense commune. Et en réalité, le mot derrière cette vision, c'est le mot de fédéralisme. Est-ce que vous le partagez? Est-ce que vous êtes, et vous le dites clairement, je suis pour une Europe fédéraliste et un saut fédéral?
Moi, je suis profondément européen. J'ai un problème avec l'orientation politique de la construction européenne. Vous savez, j'ai mon premier vote était pour le traité de Maastricht en 1992. Et j'avais 20 ans. Et à l'époque, le pari que nous faisions était de dire que l'intégration économique et monétaire va produire mécaniquement de l'intégration sociale et politique. Le problème, c'est qu'on a fait un marché, on a fait une monnaie, mais on a assumé dans les frontières de l'Union européenne une sorte de compétition de tous contre chacun, avec notamment le dumping social et fiscal, avec des fiscalités très disparates d'un pays à l'autre. Et surtout, on ne s'est pas armé au nom du libre-échange face au bloc, qu'il s'agisse des États-Unis ou surtout de la Chine.
Donc aujourd'hui, c'est important ce que vous dites. C'était un moment aussi où certains affirment qu'on s'est assis sur la volonté populaire. Est-ce que ce n'est pas, c'est une crainte et c'est une question, est-ce que ce n'est pas le but d'une Europe fédérale, c'est-à-dire d'effacer, d'annihiler finalement les nations?
Mais vous voyez, je vous ai dit mon premier vote favorable, il était en 92, c'était un pari. Et 13 ans après, en 2005, j'étais un de ceux qui a fait campagne pour le non, au nom principalement de ce décalage et de cet échec. Et donc aujourd'hui, moi, on a besoin de plus d'Europe, mais d'une Europe qui assume des choix, par exemple, pour permettre une harmonisation fiscale et sociale à l'intérieur des frontières européennes et qui assume, par exemple, cette souveraineté, voire la chance, qui était hier un gros mot, et moi je suis très content qu'il soit prononcé par Raphaël Glucksmann, par exemple, un protectionnisme écologique. Le fait de dire qu'avec des mesures miroirs, on impose aux produits qui rentrent dans les frontières de l'Union européenne le respect des mêmes normes de production en manière sociale ou environnementale.
Pardonnez-moi, quand vous allez rentrer dans le dur, vous verrez que ces clauses miroirs, pour les imposer, il faut être réveillé de bonne heure. Mais restons
mais oui, mais parce que justement,
c'est la réalité.
Mais c'est l'échec d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire l'idée de ne pas avoir poussé ce volontarisme-là, mais on peut prendre d'autres sujets. On parle des salariés. Hier, on est allé au bout d'un processus d'adoption de la directive sur la protection, vous savez, des travailleurs détachés, des livreurs, des Deliveroo ou des chauffeurs Uber. Qui est-ce qui a essayé de saborder cette directive de protection qui leur permet justement de ne pas être le lumpen prolétariat des temps modernes, totalement exploité, et de pouvoir bénéficier de la protection liée au salariat? C'est Emmanuel Macron lui-même qui a sabordé, du fait de sa position gouvernementale, ses positions.
Le fossoyeur, si je comprends ce que vous dites.
Mais en tout cas, c'est un double discours qui est insupportable.
Et votre discours, par exemple, sur l'immigration. Plus d'Europe, c'est plus d'immigration pour vous. Est-ce que vous assumez aujourd'hui de dire, j'ai repris les mots il y a 10 ans, puisque vous parlez du passé, du Parti Socialiste, qui affirmait ceci, l'immigration est une chance et c'est un levier d'enrichissement culturel. Est-ce que vous le diriez aujourd'hui?
Mais en tous les cas, ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, enfin, je partage les mots, je refuse.
Aujourd'hui encore?
Mais évidemment, nous sommes une terre d'immigration, nous l'avons toujours été et nous continuerons à être une terre d'immigration. Faut arrêter d'entretenir une fiction qui consiste à dire que l'immigration zéro est le seul modèle. On peut avoir une possibilité, on peut avoir une discussion.
Non, mais oui, mais. Donc l'immigration est une chance, c'est important pour vous.
L'immigration contrôlée et encadrée, c'est une compétence des États dans le cadre européen. C'est pour ça que le pacte asile-immigration qui a été présenté, adopté et que nous n'avons pas voté, précisément parce qu'il n'est pas efficace. D'abord parce qu'il pointe la question de l'asile, et moi je suis attaché à la question de l'asile, et parce que il ne s'attache pas à ces situations dramatiques de ceux qui meurent en Méditerranée ou dans la Manche, et il n'assume pas la construction de voies légales d'immigration dont nous aurons besoin dans le pays.
Mais est-ce que vous êtes en cohérence avec les Français ? Par exemple, sondage ce matin, 67% des Français, c'est quand même une majorité assez nette, se disent favorables au nouveau projet de loi Jérôme Guedj qui vient d'être adopté en Grande-Bretagne. Ça a été des semaines de débat pour renvoyer les migrants illégaux et les demandeurs d'asile arrivés illégalement vers le Rwanda qui va donc gérer tout cela. 67% des Français. Et quand vous dites que c'est une chance ?
Parce que, pardon de le dire, mais quand on va entretenir et alimenter cette logique un peu simpliste, voilà. Moi, je suis pour le respect du droit. Si on n'a pas des conditions de séjour réguliers sur le territoire national, elles doivent être vérifiées, contrôlées dans des délais dignes, notamment pour l'asile. Et il faut aussi respecter les conséquences. Mais le discours qui éclabousse tout ça, c'est de dire, bah, derrière toi, on n'a pas besoin d'immigration. Les mêmes Français dont vous parlez. Si vous leur dites, pour l'auxiliaire de vie qui va s'occuper de votre papa ou de votre maman, pour le serveur qui va travailler, pour le professeur sur le plateau de Saclay qui va enseigner et former vos ingénieurs, vous voulez absolument qu'il n'y ait pas d'immigration ?
Les services d'urgence... Croyez-vous que ce discours tient encore avec un taux de chômage comme celui qui est le nôtre ?
Mais nous savons aujourd'hui que nous avons des secteurs en tension pour lesquels, de toute façon, le recours à l'immigration, en plus de la mobilisation de l'ensemble des résidents réguliers, français ou étrangers sur le territoire national, est nécessaire. Enfin, vous savez, la démographie, c'est aussi un facteur de puissance. Et considérer que se priver de cet apport migratoire, vous savez que l'année dernière, pour la première fois, il y a eu plus de décès que de naissances sur le territoire
français. Donc on peut, l'immigration va venir combler le déficit de natalité, c'est ce que vous dites ?
Je défends aussi le réarmement d'une politique nataliste, à condition que ce soit une politique sociale de soutien notamment aux familles, de soutien aux femmes qui doivent concilier vie professionnelle et vie familiale, mais de grâce, cessons d'alimenter un discours à ce point anxiogène sur ce qui n'est pas une opinion. C'est un fait de société, c'est un fait démographique qu'on va pas balayer d'un revers de la main.
Nous avons parlé d'Europe, d'immigration, vous avez parlé de protectionnisme écologique. De son côté, la France insoumise veut mettre surtout Gaza, Jérôme Guedj, au cœur de la campagne. La convocation par la justice de Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée, fait couler beaucoup d'encre. Dans le cadre d'une enquête pour apologie de terrorisme. Est-ce que vous considérez que c'est une judiciarisation du débat que vous dénoncez ou alors, sur un sujet aussi grave, LFI doit s'expliquer sur son communiqué et ses propos ?
Moi, je suis très clair, Sedel Mabrouk. J'étais Charlie et je suis toujours Charlie. Je suis trop attaché à la liberté d'expression pour considérer que, dans le débat politique, chacun n'est pas libre de dire ce qu'il veut. Je me suis prononcé sur ce communiqué du 7 octobre. C'était une faute politique et morale. Je l'ai condamné et j'en ai tiré les conséquences. Mais je le combats sur le terrain politique et moral. Judiciariser et criminaliser, comme on le voit depuis plusieurs années, les questions syndicales, les questions associatives, on l'avait vu avec les soulèvements de la terre.
Et ça, vous dites pour tous, pas seulement pour une personnalité de gauche.
Je le dis pour tous, voilà. Je n'aime pas cette espèce de chape de plomb qui consiste à détourner des outils de la lutte antiterroriste. Cette disposition sur l'apologie du terrorisme, c'était une disposition prise dans le cadre de la lutte antiterroriste, et de venir pointer tel ou tel. Maintenant, après, j'assume le débat politique. Et je le fais y compris avec des gens qui n'ont pas hésité à me jeter en pâture quand je n'étais pas d'accord avec...
C'est pour ça que j'ai démarré par cette question avant d'aller
sur... C'est le débat politique.
Vous avez été une cible dans ce débat, puisque Jean-Luc Mélenchon vous a dénoncé comme étant l'un des instigateurs de l'annulation de sa conférence. Alors, vous avez affirmé que vous n'aviez pas demandé cette annulation, mais vous avez dénoncé d'ailleurs très rapidement le fameux logo sur l'affiche de cette conférence qui, je le rappelle, nie l'existence d'Israël. Mais de quoi Jean-Luc Mélenchon, pour vous, Jérôme Guedj, pour vous, pour votre histoire, pour votre engagement, pour vos convictions, se rend-il coupable en adoubant un tel logo ?
Il entretient une ambiguïté, c'est le point que j'ai dénoncé. En effet, c'était mensonger de dire que c'était sous mon impulsion que cette conférence à Lille a été annulée. Je vous ai dit, je suis attaché au débat démocratique, et j'avais dit très clairement, chacun peut choisir les thèmes qu'il veut aborder. Mais souffrez que moi-même, je puisse dire que les ambiguïtés depuis le début de ce conflit porté par la France insoumise m'ont été insupportables. Le communiqué du mois d'octobre...
Il est ambigu encore ? Quelle ambiguïté il y a en réalité quand vous adoubez... Non mais je pose une question,
le point,
quand vous comparez le président de... Comparez, vous adressez un parallèle, pour être précise, entre le président d'une université et Adolf Eichmann. Où est l'ambiguïté ?
Mais pour moi, tout ça, ce sont des fautes politiques et morales. D'ailleurs, plutôt révélatrices d'une fébrilité dans cette campagne électorale. Et surtout, l'absence de nuances. Parce que, voyez-vous, on veut me réhabiller comme d'autres dès l'instant où on n'est pas aligné sur les positions de la France insoumise. Et on peut ne pas être aligné sur une partie des positions. Le point de départ était l'absence de condamnation claire du Hamas comme mouvement terroriste. Moi, je demeure sur la ligne qui n'a pas bougé. Voilà. Je pense... D'abord que c'était une attaque terroriste, je pense aujourd'hui encore à la libération des otages, et dans le même temps, et bon sang, pourquoi on n'arrive pas dans ce pays à pouvoir dire ça, et à dire aussi que je suis...
On nous enjoint
de choisir
vous
un camp.
Vous étiez dans le même mouvement, la NUPES.
Et je veux terminer ma phrase, parce que sinon on va dire que je suis hémiplégique, je veux pouvoir condamner le Hamas... dire qu'il est l'adversaire des Palestiniens et dire aujourd'hui que la riposte israélienne est insupportable.
Je vais vous poser on va en parler.
Et il faut le dire extrêmement clairement, que je combats le gouvernement de Benjamin Netanyahou comme hier soir des Israéliens sont allés manifester devant son domicile pour dire ça suffit. Je le fait
Monsieur
que...
Gadget, attendez, on va y venir. Je veux comprendre. Vous avez
choses.
Été ciblé. Il y a comme, on dirait, des haters sur les réseaux sociaux quand même.
Je confirme.
Qui vous poursuivent. Donc moi, j'aimerais savoir, par rapport à Jean-Luc Mélenchon, où vous en êtes aujourd'hui. Vous me dites des ambiguïtés. Est-ce que c'est votre gauche? Et comment vous le qualifiez, tout simplement?
Écoutez, la conséquence, j'espère que tout le monde l'a vu. La conséquence de ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est que la coalition politique que nous avions mise en place en juin 2022 n'existe plus. Voilà, j'ai été un de ceux, et franchement, je n'en tire aucune gloriole, mais c'était pour moi épidermique et principiel.
Mais pourquoi avoir attendu ce temps? Vous ne vous doutez pas de telles ambiguïtés? Moi, c'est parfois, votre étonnement peut étonner.
Écoutez,
c'est-à-dire, vous ne vous doutiez pas que sur Israël, Jean-Luc Mélenchon avait de telles positions?
Non, pour la raison simple, c'est que je...
Vous n'avez jamais discuté avec vos alliés sujet-là.
Sur ce sujet-là, je vais vous prendre un seul exemple.
Ça fait 50 ans que le conflit existe.
Oui, mais sur ce sujet-là, Jean-Luc Mélenchon lui-même, dans une conférence qu'il avait fait en janvier 2024, a reconnu que ce n'était pas un sujet sur lequel il allait beaucoup travailler. Je vais vous prendre qu'un seul exemple. Jean-Luc Mélenchon a sorti un livre juste avant le début du conflit. Dans ce livre, parce que moi je lis attentivement les écrits politiques des uns et des autres, il n'y a pas une ligne sur le conflit israélo-palestinien. Il n'y a pas une seule ligne sur le conflit israélo-palestinien.
Vous aviez un doute sur ces positions?
Non mais, en tous les cas, moi la position qui d'ailleurs était celle qui était dans notre accord politique, était le soutien à une solution à deux États, qui ne passait pas par cette logique de conflictualisation et de déséquilibre. Moi j'avais été heurté par ce communiqué, mais vous voyez... ils ont fait le choix de faire de ce thème-là un sujet de la campagne des élections européennes. Voilà. Pourquoi pas? Mais donc, du coup, ils sont enferrés dans une logique de surenchère, de clivage, et donc, du coup, de délimitation. Alors que, dans le débat, encore une fois, comment on rend audible la nécessité de la protection des civils palestiniens? Et voyez, quand je dis ça, je le dis à tous les endroits. Quand je vais le dire à une manifestation pour demander la libération des otages, je me fais siffler par une partie du public qui considère que dire ça, c'est un crime de lèse-majesté et c'est une atteinte à la défense de l'État d'Israël. Est-ce qu'on peut avoir de la nuance dans le débat politique? Est-ce qu'on peut avoir une position équilibrée? Moi, je suis un universaliste républicain. Et pardon de le dire, entre Meir Habib et Rima Hassan, eh bien, je pense qu'il y a un chemin, qu'il y a un chemin de la raison qui est capable...
Vous les mettez dans des positions opposée mais sur le même plan?
En tous les cas, dans le niveau de crispation identitaire et d'impossibilité d'avoir une écoute, les Israéliens eux-mêmes sont traversés par ce débat politique. Et nous, il faudrait qu'on soit campé sur des positions à ce point heurtées. Moi, j'essaye d'avoir cette position où, je le redis, la colonisation en Cisjordanie, c'est une faute politique, c'est la guerre telle qu'elle est menée aujourd'hui, les dizaines de milliers de victimes palestiniennes me heurtent, me blessent, me révulsent matin, midi et soir. Et je suis pour la protection de l'ensemble de ces civils. Je suis pour que Israël, comme l'ensemble de ses partenaires le lui demande, ne soit pas embarqué dans une fuite en avant pour des mauvaises raisons et qu'on garde la perspective d'une solution politique à deux États. Mais je suis dans le même temps pour reconnaître que le Hamas ne peut pas être un interlocuteur. Il continue à détenir des otages aujourd'hui. Il a engagé le 7 octobre.
Vidéo qu'on a découvert
hier,
sur un otage américano-israélien.
Et surtout le 7 octobre, il a envoyé ce message-là de... d'élimination de l'existence même de l'État d'Israël à travers la barbarie des attaques qui a été faite. Et donc, toute complaisance ou ambiguïté à son endroit, forcément, me heurte.
Et vous appelez à la nuance sur les
En général, j'appelle
positions.
À la nuance dans le débat politique, mais la nuance n'est pas une pusillanimité.
C'est pas un manque de courage.
On peut avoir
Au contraire.
C'est surtout pas un manque de courage, bon, alors, au contraire. C'est très paresseux d'être à ce point clivant.
Nous avons beaucoup parlé de sujets très importants. Il y en a un auquel il faudrait consacrer, j'allais dire, des journées, c'est ce que vous allez faire, c'est très important. La fin de vie, je vais quand même rappeler que vous connaissez bien ce sujet, Jérôme Guedj. Vous faites partie de la commission spéciale sur la fin de vie à l'Assemblée. Il y a beaucoup de questions à ce sujet, on va les laisser pour une prochaine fois, l'occasion d'un grand rendez-vous que nous devions faire ensemble. Mais sur la date, c'est prévu pour le 27 mai et le 6 juin. Est-ce que cette date est tenable aujourd'hui?
Alors, il y a deux bonnes nouvelles. On a un texte, enfin, le gouvernement qui nous dit les parlementaires vont pouvoir l'amender, le faire bouger. On a une bonne base de départ. Et moi, je m'en félicite. Et tel que les travaux ont débuté, sous la présidence d'Agnès Firmin-Lebaudeau et avec le rapporteur général Olivier Falorni, on va, je l'espère, pouvoir travailler intelligemment. Je l'ai dit dès la première séance, le fait d'avoir choisi du 27 mai au 6 juin, il y a un télescopage avec le calendrier des élections européennes et c'est bon ni pour l'un ni pour l'autre. Voilà. Et donc, merci. Moi, j'avais proposé tout simplement qu'on le décale. Ce sera pas le cas. Et j'espère qu'on va garder la sérénité nécessaire pour nous permettre de légiférer dans
la
durée.
Merci, Jérôme Guedj. C'était votre grande interview.
Merci, Sonia Mabrouk. Merci, Jérôme Guedj. Dans un instant sur Europe 1, vos signatures, à commencer par Gaspard Proust.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Il est l'heure de vos signatures Europe 1 dans un quart d'heure. Le zapping politique signé ce jour, Jérôme Béglé, le directeur général de la rédaction de Paris Match, qui met ce matin pour son numéro anniversaire 75 ans. Le Splendide réuni au grand complet. On en parlera dans la revue de presse avec vous, Olivier Delagarde. Bonjour.
Évidemment, bonjour à vous.
Qu'est-ce qu'on lit dans les journaux ce matin?
Un grand écart avec un match amical et puis la Coupe d'Europe. Je vous emmènerai de la Sorbonne à Columbia et puis donc on parlera, vous nous le disiez, de Paris Match.
Voilà, avec Emmanuel Ducrot, on se penchera sur la sortie de ce petit guide du manifestant arrêté qui paraît ces jours-ci en librairie. Les auteurs, surprise, appartiennent au syndicat de la magistrature. Mais d'abord, nous retrouvons Gaspard Proust. Bonjour Gaspard.
Bonjour tout le monde, chers auditeurs et bien sûr chères auditrices, vous qui consentez tous les matins plus nombreuses à l'écoute de ma chatoyante voix.
Bonjour.
Vous les femmes.
Bon, bonjour Gaspard. Un peu de sérieux, vous nous avez parlé de ces internats pour jeunes à la dérive. Hier, vous avez critiqué le coût de ces structures, mais j'ai envie de vous dire, critiquer c'est facile, mais vous, face aux délinquants, vous feriez quoi?
Mais je vous remercie de me poser la question et j'ai comme l'intuition que si je ne vous l'avais pas écrit, vous ne m'auriez pas vu comme une force de proposition pour remettre dans le droit chemin ces gens-là. Et comme dirait Maria Pacôme dans Les Soudoués passent leur bac...
Je les mâterai.
Alors votre solution c'est quoi Gaspard pour les mater comme vous dites
Alors vous me connaissez, vous savez à quel point je déteste la violence et que je suis avant tout un pacifiste. Moi pour récupérer des jeunes à la dérive, je crois beaucoup à une chose, la méditation.
La méditation, c'est-à-dire?
C'est-à-dire que plutôt de faire des internats avec des flopés d'éducateurs qui vont coûter une blinde, moi j'aimerais que ces jeunes, on leur fasse confiance. Qu'on les laisse se retrouver avec eux-mêmes, en autonomie.
En autonomie.
Oui, et pour ça, le mieux serait de les accueillir dans un centre de recueillement et de réflexion, comme une sorte de monastère laïque, très loin de toute forme de vie humaine. Parce que comme le prouvent toutes les études, et comme le dit si bien le docteur Boris Cyrulnik-Tamer, le frère énervé de Boris Cyrulnik-Ta résilience, plus ce lieu est éloigné du domicile, plus il est hostile, plus il est petit, moins il est chauffé, plus la puissance méditative peut se déployer.
Ben vous avez une idée, hein, comme endroit?
Oh bien sûr, Kerguelen, Cayenne, l'île du Diable, toute une série de lieux de méditation énergétiquement très chargés. Et on pourrait imaginer que dans ces endroits, bon, où ils partageraient une cellule de disons 5 mètres carrés grand max pour 10 personnes, eh bien ils pourraient vraiment se concentrer sur la respiration en faisant des cycles de, je ne sais pas moi, 10, 15, 25 ans, ce qui permettrait de faire un vrai travail sur le diaphragme. Parce que on dit souvent que 5 minutes de méditation par jour ça suffit, mais je vous assure que pour rapprocher la paix intérieure d'un Saint François d'Assise ou de Bouddha, l'idéal, c'est 30 ans de méditation. Face à un pingouin qui fait des allers-retours sur une banquise balayée par des vents à 100 km/h, on marche sur l'eau à la fin.
Oui, c'est le bagne là, que vous nous décrivez, Gaspard.
Non, ce n'est pas le bon mot. Et comme disait Albert Camus Hanouna, mal nommer les choses, c'est ajouter de la rasra à la darka.
Gaspard, pardon, si ça a déjà existé, je maintiens, ça s'appelle le bagne.
Vous êtes cruel, Dimitri. Moi, je parlerais plutôt d'expérience monastique aux embruns. Ou si c'est sous les tropiques, d'ashram laïque, paludisme friendly. Je vous assure que ça marcherait et ça coûterait pas un copec.
Ah, vous croyez?
Ah bah franchement, si pendant 20 ans, tu manges que du pain sec, tu bois que de l'eau et tu passes ta journée à te contorsionner dans un espace de 3 mètres carrés, bah, il y a moyen qu'en sortant, bah, t'ouvres un centre de yoga dans le Marais, hein. Ça ferait des belles histoires. Demain dans le Marais, ouverture d'un nouveau centre de yoga asana. Ça s'appellerait Kevin et Matteo chauffent ton chakra. Vous connaissiez les postures du yoga asana? Mettez du piment dans votre pratique et découvrez les postures du yoga burrata avec Matteo et du yoga harissa avec Kevin.
Je ne sais pas pourquoi, Gaspard, mais ça me semble quand même un peu radical, votre solution, là.
Ouais, c'est radical. Ah, vous trouvez que ça... Ben ça, c'est votre petit Bayrou intérieur qui vous murmure des choses mauvaises.
Mon Bayrou intérieur?
Oui, on a tous ça en nous, les deux voix intérieures qui nous parlent. D'un côté, l'ange gardien, le bon, tu sais, celui qui est assis dans la tourelle d'un char d'assaut avec un bandeau sur un œil et qui hurle « Feu, go, on y va, prépasse que je faiblisse !» Et puis le mauvais, le petit diable, la tête de François Bayrou, qui arrive en charentaise avec portrait de Jacques Delors sous le bras, à chaque fois que t'as envie de prendre une décision puissante dans ta vie et qui te murmure « Tu es sûr que tu veux te lancer dans cette entreprise ?» Car elle comporte le risque de fracturer la société française. Et rien que l'idée, ça me fait déjà bouger les pompons sur mes charentaises. Je nomme plein d'idées disruptives. Si tu veux traverser la vie politique comme moi, c'est-à-dire telle une carriole aux roues carrées traînée par un poney cul de jatte, hâte-toi de ne rien faire.
Bon, dites donc, Gaspard, dans l'actualité brûlante du jour, vous avez vu toutes ces personnalités de la France insoumise convoquées au commissariat?
C'est beau comme dans un film de Spielberg.
Un Spielberg? Mais quel rapport?
Ouais, j'avais l'impression de revivre un épisode de E.T. J'avais cette image, Mathilde Panot, Louis Boyard, Ercilia Soudaire, Rima Hassan, tous collés serrés dans la corbeille d'un vélo électrique, Mathieu Vallée en train de pédaler. Ils regardent Mathieu Vallée d'un air tendre, comme ils savent si bien faire, ils pointent le commissariat et lui disent « retournez maison hein ». C'est la Smala de E.T. qui veut retourner dans son biotope naturel. Parce que, non mais il faut être... Comme il parle tout le temps que des flics, c'est quelque part, il y a une relation passionnelle. Tu vois, ils veulent retourner. C'est ça, il faut l'assumer. Je sais que c'est dur pour l'extrême gauche.
Bon, autre actualité, Gaspard, j'imagine qu'il ne vous a pas échappé cette décision du Royaume-Uni d'expulser les demandeurs d'asile vers le Rwanda. Vous avez un commentaire sur le sujet?
Je suis trop bouleversé pour faire un commentaire et je me contenterai juste d'une chanson. Voyage, voyage.
Loin. Vous n'avez pas les paroles.
Merci beaucoup, Gaspard Proust.
Je vous en prie.
Bon, c'était bien avant votre week-end. On vous souhaite un bon repos. On vous retrouve mardi prochain.
J'ai besoin. Qu'est-ce que j'ai turbiné.
Oh là là, là, ça a été épuisant. Merci, Gaspard.
Trois fois 3 minutes, 12 minutes.
Et oui,
j'ai
oui.
L'impression d'être un contrôleur aérien.
On vous retrouve mardi prochain sur l'antenne.
Mais 3 fois 3 minutes, ça fait 9 minutes,
oui.
Gaspard.
Ah oui, c'est vrai. Oui. Non, parce que... Oui, putain, t'as raison.
Oui. Oui.
Ben, vous voyez, ça c'est le surmenage.
Vous pouvez rester un peu avec nous, Gaspard. Dans un instant, on va retrouver Emmanuel Ducrot. Pascal Pro passera une tête pour le sommaire de Pascal Pro et vous. Et puis la revue de presse d'Olivier Delagarde. C'est à tout de suite. La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence par un match de football un peu particulier.
Oui, d'ailleurs, ce n'est pas dans l'équipe que vous en lirez la recension, mais dans le Parisien, et pas dans les pages sport, mais dans les faits divers politiques, si on peut appeler ça comme ça, parce que le seul intérêt de ce match, outre les 57 000 balles en pièces jaunes récoltées, c'était la présence du président de la République sur le terrain. Comme quoi, chef d'État, ça vous laisse quelques loisirs le mercredi après-midi. C'était donc hier, à Plaisir, dans les Yvelines, un match caritatif organisé par notre Jacques Vendroux national. Et c'est drôle comme le sport dit parfois des choses sur ceux qui le pratiquent. Pendant le match, Emmanuel Macron aura beaucoup tenté, raconte Stéphane Corby, mais pas réussi grand-chose. Au bord du terrain, deux ados donnent leur impression au journal. Ce n'est pas le meilleur joueur, mais il se bat. Et à la fin, il aura quand même marqué un but sur pénalty. Victoire de l'équipe présidentielle 5-3. Facile un match de gala. Mais la Coupe d'Europe, parce que c'est ça le gros sujet à la une de vos journaux. Le discours de Macron en fin de matinée à la Sorbonne.
Alors vous avez entendu ce qu'a dit l'Élysée, Olivier. Ce n'est pas un événement de campagne. Hein. C'est un moment institutionnel.
Bien sûr, Dimitri. Mais personne n'est dupe. Hein. Tous vos journaux ont bien compris qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron entrait en campagne pour sauver ce qu'il peut de la Macronie. Macron joue gros, annonce les échos. Oui, l'Europe, c'est le dernier combat de Macron, titre l'Opinion. Reste-t-il un tour dans le sac du magicien, s'interroge François-Xavier Bourmeau dans ses colonnes. Usé par 7 ans de pouvoir, cabossé par les crises, affaibli par la dérive des finances publiques, Macron joue à la Sorbonne l'une de ses dernières cartes politiques, écrit-il. Mais c'est que son bilan européen est le meilleur atout du président, explique en substance Stéphane Vernet à la une de Ouest-France. En 2017, ces mots avaient marqué les esprits et bousculé les chancelleries, rappelle-t-il. Mais pour quels effets, s'interroge Vincent Trémollet de Villers, l'éditorialiste du Figaro, qui a eu l'idée de relire le texte de 2017. 7 ans plus tard, écrit-il, se plonger dans le discours de la Sorbonne, c'est contempler après la fête une guirlande dont la plupart des ampoules sont éteintes. Subsistent les tours de bonneteau sémantiques et un formidable inventaire de déceptions, immigration, transition écologique, politique agricole, et de citer cruellement les propos présidentiels lorsqu'il déclarait Je souhaite que notre partenariat avec l'Afrique soit un élément de refonte du projet européen. C'était en 2017. La politique au long cours, c'est évidemment plus compliqué que de marquer un péno à la fin d'un match.
Alors après la Sorbonne, cap sur une autre université.
Columbia, en plein cœur de New York. Lisez le reportage ahurissant d'Adrien Jolm du Figaro, où l'on se dit après que nos jeunes woke de Sciences Po Paris sont vraiment des petits joueurs. À New York, les pro-palestiniens ont installé un village de tentes pour bloquer l'université. Et comme rue Saint-Guillaume, il ne fait pas bon être juif dans les parages. Un professeur totalement décontenancé témoigne. L'université réagirait si des slogans étaient dirigés contre des noirs ou des homosexuels, mais a priori, les discours ouvertement antisémites ne gênent personne. Et de résumer la situation ainsi. Si je dis dans mon bureau à une étudiante qu'elle est jolie, je serai mis à la porte dans les 48 heures. Mais si je vous dis qu'il faut raser Tel Aviv, ça ne fera pas de vague. Reste une question, quelle va être la conséquence de tout ça ? À Gaza, aucune. Mais aux élections de novembre, eh bien, il ne faut pas être grand clair pour savoir comment l'Amérique profonde et raisonnable va voter.
Autrement, vous nous avez réservé une surprise pour la fin.
Oui, bah vous vous souvenez qu'hier, je vous parlais de super centenaire. Eh bien, aujourd'hui, place à un super septuagénaire. Paris Match, donc, qui célèbre cette semaine ses 75 ans avec un numéro collector de 220 pages. Alors, évidemment, il fallait trouver le truc. Et je dois reconnaître, mon cher Jérôme Béglé, que vous avez eu la bonne idée. Parce que quoi mettre en une de ce numéro exceptionnel ? On imagine les réunions à n'en plus finir, pour résumer à la fois le temps qui passe et l'humeur du moment, réussir un coup journalistique, un événement people, mais pas anecdotique. Quelle personnalité pour marquer l'époque et résumer Paris Match ? Un roi ? Un politique ? Une princesse ? Une star ? Alors, vous avez un peu divulgaché le suspense, mon cher Dimitri, mais pour ceux qui n'ont pas entendu le teasing, voici un indice.
Pierre Bachelet ? Vous avez mis Pierre Bachelet en une ?
J'ai osé.
Eh oui, les bronzés, l'ermite, Clavier, Chazelle, Balasco, Junio, Moineau et Blanc, ils sont tous là, la troupe du Splendide qui a 50 ans. Alors vous lirez aussi l'histoire de cette photo, de ces retrouvailles. Et comme je n'ai pas le temps, permettez-moi, mon cher Dimitri, juste de souhaiter un très bon anniversaire à Paris Match.
Ben oui, Jérôme Béglé.
Merci.
C'est sacré coup. Mais racontez-nous un peu cette photo. Elle a été difficile à monter. Les sept, quand même, ils sont tous là.
Faire coïncider leurs emplois du temps, ouais. Oui, c'était compliqué. Ils sont tous en tournage, sur les planches. Ils n'habitent pas forcément tous Paris.
Oui.
Et donc, arriver à les mettre vraiment dans un seul et même lieu, c'était donc le samedi 13 avril, au théâtre du Splendide, justement.
Il y en a qui ne voulaient pas être avec les autres Non, sans nous dire les noms, mais.
Il y en a deux qui ont été un peu plus réticents que les autres. Ouais. Et à la fin, ils étaient tellement contents de se voir. Ils nous ont tous appelés pour dire que c'était merveilleux,
parce
etc.
Qu'il y a le making-off
non, ils sont joyeux,
photo,
ils sont heureux, ils ont envie de faire des bêtises ensemble. C'est bien, ils ne se prennent pas au sérieux. Et tant mieux.
Le Splendide, les Rois du Rire réunis pour le 75e anniversaire de Paris Match. Merci beaucoup Jérôme Béglé. On vous retrouve dans un instant pour votre zapping politique. Mais pour l'heure, merci aussi Olivier Delagarde pour cette magnifique revue de presse une fois de plus. Et n'oubliez pas, vous connaissez le rendez-vous sur Europe 1, c'est de 11h à 13h. Vous prenez la parole, chers auditeurs, on vous attend. L'actualité, c'est vous qui la commentez avec Pascal Praud. Bonjour Pascal.
Le Splendide qui avait été créé en 1974.
50 ans.
Il y a 50 ans. Nous pourrons parler de la GPA. Le Parlement européen a criminalisé hier la gestion pour autrui, la GPA, qu'il considère comme un trafic d'êtres humains. Et c'est au moment où Marion Maréchal a pris position hier contre la GPA. Et c'est intéressant parce qu'elle s'est fait insulter et traiter d'homophobe parce qu'elle était contre la GPA. Non, on peut être contre la GPA et... D'ailleurs, ça ne concerne pas simplement les couples homosexuels, la GPA. Ça peut concerner les couples hétérosexuels. Donc, ça sera intéressant de savoir si aujourd'hui, Prisca Thévenot ou Clément Beaune, qui n'ont pas eu de mots assez durs hier contre Marion Maréchal, trouvent également que le Parlement européen est homophobe par cette prise de décision. On pourra revenir évidemment sur les 75 ans de Paris Match. Je crois que vous serez là d'ailleurs avec nous.
Bâton d'hiver midi.
Exactement. Donc ça nous fera plaisir d'évoquer, parce que c'est notre vie quand même, Paris Match.
Bah oui, tout à
on
fait.
On a tous connu...
Été chez le coiffeur.
Mais non
Non, mais c'est vrai. Non, bah oui.
Je pars.
Non, mais si, mon premier Paris Match, j'ai dû chez le coiffeur.
Mais on est très fiers. Vous savez, on est très fiers d'être chez le coiffeur.
Mais bien sûr.
Moi, je trouve que... Vous savez, ce qui est bien dans Paris Match, parfois, c'est les maisons de vacances.
Ah oui, c'est ça qui est
Il y a des vieux Paris Match qui traînent dans les maisons de vacances où... Voilà, on revient un an après, puis ou deux, 10 ans après, c'est un vieux Paris Match qui traîne. Donc,
et on s'aperçoit que Lady Di a bien changé à ce moment-là.
Exactement. Et alors, il y a autre chose qui est amusant, c'est que Emmanuel Macron parle aujourd'hui, il parle de l'Europe au moment où l'Europe est en séance plénière.
Absolument, c'est
donc,
vrai.
Donc
c'est
les vrai. Gens qu'il a invités ne peuvent pas être là. Par exemple, Nadine Morano, elle a fait un tweet en disant ouais. « Mais le président, il nous demande de sécher le Parlement européen au moment où il parle de l'Europe. »
C'est qui le patron? C'est ça mais la question, Pascal.
Il est étrange parfois, ouais. ce président. Hein, ouais. Mais il joue bien au football.
Est-ce que Jordan Bardella sera présent? Rappelez-vous, il y a un Jordan Bardella qui est invité à venir écouter le président.
Mais de la même manière, c'est très facile pour eux de dire, et de faire presque un acte politique, de dire « Écoutez, pardonnez-moi, je suis au Parlement européen. » Et au contraire, je ne sèche pas. Donc, parfois, il y a un peu, pas dans tous les domaines, bien sûr, mais un peu d'amateurisme, me semble-t-il.
Allez, on en parle en tout cas de tous ces sujets sur l'antenne d'Europe 1. C'est de 11h à 13h avec Pascal Praud, le numéro Anissa Haddadi.
01 80 20 39 21, numéro non surtaxé, Pascal Praud et vous, 11h 13h.
Ah, et Pascal qui vous accompagne dès 9h sur l'antenne d'Europe 1 avec l'heure des pros. A tout de suite. Emmanuel Ducrot, vous nous parlez ce matin d'un petit ouvrage qui paraîtra le 17 mai, 5 €. C'est la nouvelle édition du Guide du manifestant arrêté. C'est vendu avec le slogan suivant, le livre a glissé dans sa poche avant de descendre dans la rue.
C'est la mise à jour d'un petit bouquin qu'on trouve déjà en ligne gratuitement dans une édition de 2019, téléchargée 15 000 fois. Ça peut servir hein, si vous avez l'intention de participer à des manifs musclés. C'est le guide du routard de la garde à vue, le petit futé du commissariat. Le Michelin de mise en examen.
Bon, c'est sérieux ce guide-là ?
Ben oui, c'est très sérieux. Comment est-ce qu'un ouvrage rédigé par les membres du syndicat de la magistrature ne le serait pas ? Vous avez bien entendu, ce sont des juges, des procureurs syndiqués qui donnent leurs meilleurs conseils à des interpellés. Le syndicat de la magistrature se dit, je cite, « fidèle à sa tradition d'accompagnement des luttes et des revendications du mouvement social ». Vous pensiez naïvement que les juges étaient là pour rendre la justice ? Ben pas du tout. Ceux du syndicat de la magistrature ont choisi leur camp, celui des émeutiers.
Bon, qu'est-ce qu'on apprend dans ce guide ?
Alors je cite, « On vous contrôle, on vous arrête, on vous reproche une infraction, on vous juge en comparution immédiate, on vous fiche. Ce petit guide vous explique vos droits, le déroulement légal des procédures. Il vous propose aussi des conseils pratiques pour savoir comment réagir au mieux face à chaque situation. Alors comment distribuer des petits papiers avec vos coordonnées aux personnes qui pourraient témoigner en votre faveur en cas d'interpellation ? Comment garder le silence devant les policiers? Comment faire bonne impression au tribunal en mettant en avant sa stabilité professionnelle? On vous explique aussi quels sont les motifs de nullité des procédures et puis comment nettoyer son casier judiciaire. Alors il s'agit, je cite l'édition de 2019, hein, celle qui est disponible, de réagir face au pouvoir installé dans une frénésie législative et policière avec pour conséquence et parfois pour finalité la répression de l'expression collective. L'iconographie ne trompe pas, hein. Il y a du mégaphone, il y a du policier à bouclier, c'est beau comme un tract d'ultra-gauche. Pour l'impartialité de la justice, ben on repassera.
C'est quand même un drôle de mélange des genres, non ?
Bah oui, que des avocats ou des officines militantes éditent ce genre de brochure, ils seraient dans leur rôle. Mais des magistrats qui donnent à mots couverts les trucs et astuces pour minimiser l'application de la loi, c'est choquant. Ça éclaire d'une lumière crue le sentiment de laxisme que donnent souvent les décisions de justice face aux auteurs des manifs qui dérapent. Le syndicat de la magistrature, souvenez-vous, c'était ce fameux mur des cons sur lequel on punaisait les visages des parents des victimes de crimes jugées trop vindicatifs, eh bien il est constant ce syndicat. Ce qu'il prend maintenant pour des cons, ce sont nous tous, les citoyens qui respectons la loi, quand il cajole de ses conseils ceux qui sont prêts à l'enfreindre.
Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci Emmanuel, 8h52.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Et voici le zapping politique Europe 1. Bonjour Jérôme Béglé.
Bonjour à tous, bonjour Dimitri. Un zapping politique empreint d'indignation et de bon sens ce matin. On commence par le président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, qui n'en revient toujours pas du traitement très très favorable obtenu par les cheminots afin de contourner la loi sur les retraites. Il s'en est expliqué sans embâge hier au micro de Sonia Mabrouk sur Europe 1 et CNews.
Le chantage à la grève a payé, voilà. Le chantage a payé, mais la gréviculture a gagné. Et en réalité, on a le contournement de la réforme des retraites qui a à peu près un an seulement sur des fonds publics.
Continuons notre cure de parler vrai. Béatrice Brugière est magistrate pénaliste. Elle s'est penchée sur les mots MAUX qui assaillent l'éducation nationale. Sur RTL, elle livre quelques chiffres à Amandine Bégaud qui semble ne pas y croire tant ils sont édifiants.
Pour les élèves de CM1, CM2, donc CM1, CM2, on est sur...
9-10 ans.
9-10 ans, merci. Vous avez... quasiment 23% des élèves qui viennent à l'école avec la boule au ventre parce qu'ils ont déclaré qu'ils ont très peur de la violence au sein de l'enceinte scolaire.
Un enfant sur quatre de 9-10 ans a peur d'aller à l'école.
voyez, le rapport, il date de septembre 2022, donc il est déjà un petit peu ancien. On parle de 23%, donc c'est pratiquement un élève sur quatre.
Parfois, le bon sens reprend ses droits. Philippe Cour, qui est préfet du Val d'Oise, revient sur cette famille expulsée de son logement social de Taverny après avoir commis à de multiples reprises des actes de délinquance. Pour lui, pas de doute possible, cette famille ne peut plus profiter d'un logement social. Écoutez-le au micro de Romain Desarbres dans la matinale de CNews.
Un parc social, logement social, c'est un logement qui est aidé à la construction et qui est également aidé à la location, vous savez, au travers des APL que le contribuable finance. On a 80 000 familles qui attendent des logements sociaux en Ile-de-France, donc ce logement sera rattribué à une famille paisible. Non, cette famille, elle va faire comme beaucoup de Français, elle va devoir chercher un logement par elle-même dans le parc privé.
Objet de nombreuses critiques de ses adversaires politiques, Fabrice Leggeri, qui est numéro 3 de la liste Rassemblement National aux Européennes, répond à ses détracteurs et explique le rôle trouble, pour ne pas dire un peu plus, et en tout cas contraire à l'intérêt général, de certaines ONG, c'était hier dans l'émission de Pascal Praud sur CNews.
Il y a des ONG en France, en Europe, qui sont de fait en train de faire le jeu de ces organisations qui envoient les migrants à la mort.
Terminons avec les débats qui débutent sur la question de la fin de vie. À l'Assemblée nationale, les députés ont auditionné les représentants des religions pour entendre leurs idées et pourquoi pas leurs réserves sur le projet de loi. Ainsi, l'archevêque de Rennes, Pierre Dornelas, qui devant les caméras de LCP pose les bonnes questions.
Pourquoi ne pas largement favoriser, comme le souligne le Conseil d'État, la sagesse pratique ? Plutôt que de rendre légal par le droit l'acte létal. Pourquoi trancher par le droit ce qui relève de cette sagesse éprouvée par le temps et par la transdisciplinarité ? Il me semble qu'il faut encourager cette recherche, la favoriser et lui faire confiance.
Merci beaucoup Jérôme Beglier pour votre zapping politique et encore bravo pour ce bel anniversaire.
Merci,
Paris
merci.
Match à 75
merci
ans et toutes ses dents. À la semaine prochaine. Allez, restez avec nous sur Europe 1 à partir de 9h30. N'oubliez pas Culture Média avec Thomas Hill. Les invités ce matin, Anissa Dani.
Un très bel invité, un homme qui a réalisé Le Père Noël est une ordure, Les Visiteurs ou encore ceci.
Je n'ai pas changé. Je suis toujours ce chenomètre.
L'homme qui est derrière Papy fait de la résistance, entre autres, mais aussi Les Anges Gardiens, Cornette Biff, etc. On va parler de toute sa carrière. Il publie ses mémoires et sa vie est un véritable film. Jean-Marie Poiré sera l'invité de Culture Média entre 9h30 et 11h sur Europe 1.
Voilà, et dans quelques instants sur Europe 1, l'information continue. Vous retrouvez Pascal Praud pour l'heure des pros. Je vous souhaite une excellente journée. À demain.